connaissons, nous n'avons jamais proposé de conférence, et encore moins de conférence sur le thème du bonheur, et plus exactement du bonheur à l'épreuve de l'adversité. Alors, le déroulement, une fois parlé, à discuter tous les trois, on va échanger, donc il y aura un peu d'improvisation, hein, c'est un petit peu comme un trio de jazz, ces trois musiciens qui connaissent leur partie, mais qui vont s'adapter les uns aux autres en fonction des réparties, des répliques, des messages. Pendant une heure et demie, on va discuter entre nous, donc vous serez avec nous évidemment, et puis ensuite on prendra trois quarts d'heure environ pour échanger avec vous à propos de ce thème et d'autres choses. Donc là, des micros circuleront dans la salle. Pour démarrer, ce que nous vous proposons, c'est chacun de nous trois va se présenter à vous. Et notamment, qui sommes-nous, hein, puisque vous ne nous connaissez peut-être pas tous les trois, c'est le principe d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce genre de rencontre. Certains viennent pour Sylvain, d'autres pour Frédéric, d'autres pour moi, donc voilà. Donc on va se présenter, on va vous dire, pour démarrer, quel rapport on a avec cette histoire de bonheur, avec cette recherche de bonheur, comment on le définirait, et puis après, la discussion s'animera tranquillement. Donc, je ne sais pas, on n'a pas limité nos interventions, je ne sais pas Sylvain ou Frédéric, tu veux démarrer, Frédéric, allez, on peut préférer que ce soit toi, camarade.
Prêter au jeu de l'inauguration, ce qui va rajouter un peu à mon angoisse absolue. Et c'est-à-dire que non seulement j'ai l'impression de ne vraiment, ne pas être à ma place ici, ce serait extrêmement inconvenant, parce que je suis très heureux d'être là, de vous rencontrer et de m'associer à une conversation avec Christophe et Frédéric. C'est pas ça que je veux dire, mais simplement j'ai l'impression de ne pas être à ma place ici, dans la mesure où, pour moi, parler du bonheur est une forme d'exploration d'un terrain hostile. Pour parler comme un géographe que j'ai très peu d'habitude de fréquenter. Alors, puisque Christophe André nous a d'abord demandé de nous présenter, faisons les choses dans l'ordre, avec méthode et efficacité. Alors, moi, je m'appelle Sylvain Tesson, je suis écrivain voyageur. Je pourrais presque dire finalement, comme je dis de ma plume, je pourrais dire que je suis une plume. Mais comme il y a des problèmes aujourd'hui avec la masculinisation des substantifs et la féminisation des adjectifs, je préfère dire que je suis un plume. Voilà, comme ça met tout le monde d'accord, parce que sinon on a des problèmes. Mais j'ai une autre manière de me définir qui m'a été inspirée par un juge allemand. J'ai été déféré une fois dans ma vie au criminal commissariat de la ville de Cologne parce que j'avais grimpé la cathédrale et la police allemande m'a attrapé à la descente en rappel à la fin de l'escalade. Et à midi, j'ai rencontré le juge. Et alors, l'interrogatoire a eu lieu en anglais. Et le juge m'a dit « Why did you choose to climb Cologne ?» Alors j'ai dit « Because it is the highest cathedral of Europe. » Et le juge m'a dit « Nein. » Of the world. Et alors ensuite, il m'a dit que le rapport de police indiquait que dans les sacs à dos qui avaient été fouillés, il y avait des cordes et des mousquetons, et également des livres. Car nous avions emporté ça en pays, mes camarades, pour pouvoir déclamer des alexandras sur les gargouilles gothiques. Et le juge m'a dit, you have a book in your bag. Are you an activist? Et moi, j'ai répondu, non, monsieur le juge. Ich bin ein Fantasist. Et je trouve que voilà une manière dont j'aimerais, quand je ferai une stèle mortuaire, j'aimerais bien être activiste fantaisiste. Parce que je suis pour l'action, et je suis pour la fantaisie, et je suis pour le mouvement de l'une vers l'autre, donc je suis pour les deux.
Sauf si tu veux nous parler tout de suite de ton rapport.
Alors, je me souviens plus si nous recommandez d'abord de présenter puis de parler du rapport au bonheur. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un rapport assez élastique et lointain. Je me sens un peu comme le mauvais cousin mal élevé qui est à la table des professeurs qui sont des spécialistes de de l'affaire. Je ne voudrais pas donner l'impression dans cette soirée de gâcher une harmonie parfaite. Je ne voudrais pas passer pour... Vous savez, quand on fait les dîners de famille, on aime toujours, quand on était petit, on avait toujours un vieil oncle, plus ou moins adjudant de la Légion, qui râlait beaucoup et qui gâchait un peu l'atmosphère extrêmement heureuse, d'une certaine manière, des repas du dimanche. Donc j'essaierai de ne pas m'installer dans ce mauvais rôle-là. J'ai quand même un rapport avec le bonheur, parce que finalement, je suis un être humain, moi aussi. Et mon rapport avec le bonheur, je le définis, je l'imagine par trois mouvements. Le premier, c'est un mouvement qui nous conduit, je crois d'ailleurs, au cœur de notre conversation de ce soir, et là je suis très sérieux, vers une adoration profonde pour ce qui est tangible, ce qui appartient à la perception des cinq sens dont j'ai été doté. Un accident m'a fait, hélas, perdre une certaine acuité de beaucoup de ces sens, mais le peu que j'ai gardé de capacité de perception du monde, je veux, moi, traverser cette existence en opposant à l'extraordinaire efflorescence du réel une déférence et une dévotion absolue. Donc je suis pour le réel. Et ça, c'est ma première voie d'accès au bonheur, c'est que je refuse absolument le primat du virtuel sur le réel, le primat du rêve sur la chose, le primat de l'imagination sur ce qui se présente à mes sens. Non pas que je sois contre, puisque je suis écrivain, j'aime la représentation des choses, mais je ne la pose pas dans la hiérarchie de ma compréhension du monde et de la condition humaine. Je ne mets pas la représentation des choses au-dessus des choses. En termes de conclusion, je pourrais reprendre et faire mienne, faire de la superbe phrase de Horatio à Hamlet, ma devise, il est plus de merveilles en ce monde que n'en peuvent contenir tous nos rêves. Donc à partir du moment où on se dit ça, on a déjà un trou de serrure par lequel on peut penser qu'on ira vers le bonheur, c'est qu'on se contentera de ce qui est autour de nous avant de rêver à des chimères impossibles. La deuxième voie d'accès, c'est d'accorder profondément son solfège intérieur à la pulsation temporelle du présent. Enfin ça, je dis ça en termes très cuistres, parce que ça veut tout simplement dire de réussir à s'installer dans le grand battement, dans la grande scansion des jours, ni dans la macération, dans le souvenir passé et dans sa nostalgie, ni dans l'excitation du projet futur, mais de réussir à trouver le juste accordement à la fine pointe de l'instant. C'est quelque chose qui est très ordinaire, qui est beaucoup formulé par les penseurs, et que la littérature souvent dit merveilleusement. Moi, je ne veux pas devenir Madame de Mortsauf, qui, à la fin du Lys, dans la vallée, souvenez-vous, pour les plus jeunes d'entre vous, vous vous en souvenez, vous avez lu récemment le Lys dans la vallée, et Madame de Mortsauf, à la fin de sa vie, mourant sur son lit d'agonie, s'aperçoit que le jeune homme qui lui tient la main l'aimait depuis 20 ans, mais elle n'a pas voulu de cet amour, parce qu'elle a laissé passer le temps, parce que probablement était-elle corsetée, circonscrite, par des conventions dogmatiques qui l'empêchaient d'aller vers le chemin que lui ouvrait son cœur. Et elle a postpondé, disent les Anglais, elle a reporté à plus tard la possibilité de vivre cet amour. Seulement un jour, il est trop tard. Et moi, je ne veux pas qu'il soit trop tard. Je ne veux pas un jour regretter les choses. C'est pour ça que je regarde ma montre et qu'à chaque fois que s'offre l'occasion de reporter une action ou de retarder l'accomplissement d'un désir, eh bien, je plonge par l'intuition présente. Je commets beaucoup d'erreurs, mais je préfère les erreurs et les bosses que je reçois de cette espèce d'adoration, de sauter à la gorge de l'instant qui se présente, plutôt que d'avoir à souffrir des blessures d'un autre ordre, qui sont les blessures du regret et de la nostalgie. Donc je ne veux pas être Madame de Mortsauf, j'aime le réel, je veux considérer qu'il y a plus de vérité dans ce monde que n'en peuvent contenir nos rêves. Et la troisième voie d'accès, c'est que je pense qu'il me rend heureux, qu'il me donne beaucoup de bonheur. Je ne sais pas si c'est une définition, professeur André, mais je crois que de toute façon, quand on commence à définir le bonheur, c'est qu'il n'existe plus, sinon tout le monde serait heureux. S'il y avait une définition du bonheur, il n'y aurait que des gens heureux. D'autre part, si j'en avais une, je ne la dirais pas, parce que je suis un peu superstitieux. Non, ma troisième voie d'accès au bonheur, c'est de transformer l'expérience physique que je vis en vertu des deux premières voies d'accès que je vous racontais, l'amour de la rugosité réelle que j'empoigne et la nécessité de le faire tout de suite, et j'essaie de transformer cette expérience-là en conscience, c'est-à-dire en substance intellectuelle, et ensuite de la formuler par l'écriture, et donc de prolonger l'extraordinaire captation de la sensation que j'ai eue, qui est devenue une idée, et que je continue par le fil de la plume. Et voilà comment je me suis intéressé au bonheur, ne réussissant pas vraiment à être heureux, mais après tout, ce sont deux questions différentes.
Merci. Le présent, l'écriture, on va prêter attention à la vision de Frédéric. D'abord, qui es-tu? Quel est ton rapport avec le bonheur?
Oui, j'ai 2 heures pour répondre.
Voilà, j'ai le rôle d'animateur conférencier qui a un rôle un peu bancal. J'espère que je ne vais pas être trop casse-pied avec tout ça.
Eh bien, écoute, je m'appelle Frédéric. Je suis philosophe, sociologue et écrivain. Et je dirais que le bonheur était une question pour moi qui est devenue importante parce que je pense que j'étais malheureux. Et donc c'est parce que, enfant, adolescent, j'ai eu une vie chaotique que j'ai cherché à trouver de l'harmonie, que j'ai cherché à trouver un équilibre que je n'avais pas. Et donc je me suis intéressé à la question du bonheur à travers des diverses dimensions pour essayer de la comprendre. Et ça a été un chemin personnel autant qu'un chemin de transmission de connaissances. Alors, je viens de parler de l'harmonie. Moi, je définis beaucoup le bonheur par rapport à l'harmonie. C'est-à-dire, je crois que dans ma quête personnelle, il y a cette recherche de trouver une harmonie entre l'être singulier que je suis et la musique du monde. Et de me mettre en harmonie avec les autres, avec le monde, avec la société dans laquelle je vis. Et que cette harmonie-là, c'est toujours un équilibre précaire que j'essaie de retrouver. Je le perds parfois. Et donc le bonheur est toujours un peu insaisissable parce qu'on passe de moments où tout est harmonieux à des moments où ça ne l'est plus du tout, à des moments où ça l'est un peu. Et donc je crois que le mot harmonie définit assez bien ma conception du bonheur. Après, j'ai cherché à élaborer une définition, contrairement à mon ami Sylvain, du bonheur. Quand j'ai écrit un livre qui s'appelle « Du bonheur, un voyage philosophique » il y a 10 années, je me suis dit « je vais essayer de trouver une définition courte du bonheur qui dise les choses de manière assez rationnel, et j'ai défini de la manière suivante. Le bonheur, c'est la conscience d'un état global et durable de satisfaction de l'existence. Alors, si j'explique les mots très rapidement, le bonheur, c'est la conscience déjà d'être heureux. Parce que, vous connaissez cette phrase de Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Très souvent, c'est par l'expérience du malheur qu'on découvre ce que c'est que le bonheur. C'est tout le jeu des polarités. Qu'on voit dans l'univers, c'est par le jour que la nuit nous émerveille, c'est par la nuit que le jour nous émerveille. Et donc nous avons toujours ces polarités qui s'éclairent l'une l'autre. Et donc le bonheur est éclairé par le malheur. Et quand on est dans le malheur, effectivement, on peut comprendre qu'on avait ce bonheur, cet état peut-être d'équilibre, d'harmonie, de paix, de satisfaction de l'existence, qu'on a perdu parce que le malheur est arrivé. Il y a d'ailleurs des philosophes comme André Comte-Sponville. Il donne la seule définition du bonheur, c'est l'inverse du malheur. Je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin et se dire effectivement, déjà la conscience d'être heureux, c'est déjà le début du bonheur. Et puis ensuite, je dis, le bonheur, c'est la conscience d'un état global et durable de satisfaction de l'existence. Et c'est toute la différence avec le plaisir, puisqu'il y a 3 grandes expériences de satisfaction, c'est le plaisir, le bonheur et la joie. Il m'apparaît important de les distinguer. Donc très rapidement, le plaisir, c'est une émotion passagère. J'ai soif, je bois, j'ai du plaisir. 2 heures après, j'ai soif à nouveau. J'aime un morceau de musique, je l'écoute, c'est formidable, et après, ça s'arrête. Je parle avec un ami. Donc, le plaisir a besoin d'être renouvelé en permanence. C'est quelque chose de passager et qui dépend beaucoup, évidemment, des choses extérieures. Le bonheur est un état d'être. Et ça paraît une distinction philosophique importante. Parce que sinon, on confond les mots. Et quand des gens vous disent « quel bonheur », ils veulent dire souvent « quel plaisir ». C'est-à-dire, je ressens une satisfaction très forte à l'instant parce qu'il se passe un événement, mais je serai peut-être malheureux 2 heures après. Alors que lorsqu'on dit « je suis heureux », sans même le conscientiser véritablement, ça veut dire qu'il y a un état durable. Ça veut dire que globalement, j'aime la vie que je mène. Et donc, sans faire de philosophie de sociologie, quand vous posez la question « est-ce que vous êtes heureux ?», vous, inconsciemment, vous répondez avec l'idée d'une globalité, d'une durée. Ça veut dire que globalement, j'aime la vie que je mène, que de manière assez stable, je suis dans cet état de satisfaction, et vous n'allez pas dire que vous êtes heureux, alors vous avez un petit plaisir, alors que par ailleurs, vous traversez une épreuve épouvantable. Et donc, le bonheur est un état d'être quand le plaisir est plutôt une émotion passagère. Et la joie, c'est un peu entre les deux. La joie, il y a à la fois cette dimension du plaisir, c'est une émotion qui peut être extrêmement courte, mais c'est l'octave supérieure du plaisir, beaucoup plus intense, qui prend tout le corps, tout l'esprit, toute l'âme, tout notre être est transporté par la joie, et souvent on bondit. Donc il y a cette dimension très globale de la joie, qui est une incarnation très puissante de quelque chose qui nous fait souvent d'ailleurs sortir de nous-mêmes et qui nous réjouit, qui nous ravit. Et la joie peut être aussi un état global et durable, comme le bonheur, c'est-à-dire un sentiment durable. C'est ce que recherche un certain nombre de philosophes, comme Spinoza. Toute son œuvre est la construction de la possibilité d'une joie durable. Et donc ce n'est pas qu'une émotion, c'est un état d'être. C'est une forme d'incarnation du bonheur. Et dans l'histoire de la philosophie, au fond, dans la recherche du bonheur comme satisfaction globale et durable de l'existence, eh bien, il y a deux incarnations très fortes. Il y a la joie, c'est tout le courant du taoïsme, des évangiles, de Montaigne, de Spinoza. Et puis, il y a la sérénité, c'est-à-dire la paix intérieure. Et ça, c'est le bouddhisme, c'est le stoïcisme, c'est tous ces courants qui recherchent l'ataraxie, l'épicurisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut garder la paix intérieure de manière globale et durable, que rien ne puisse m'atteindre, que les événements extérieurs n'aient pas d'emprise et ne fassent pas perdre la paix intérieure. Et donc, voilà quels sont quelques éléments qui nous permettent de comprendre, en tout cas de distinguer ces expériences de satisfaction que sont le plaisir, le bonheur comme un état d'harmonie assez globale de notre vie, qui peut disparaître, hein. Ça peut durer des années, puis d'un coup, j'ai une épreuve terrible, j'ai un deuil insurmontable, et là, le malheur survient et je perds cet état-là. Il n'est jamais définitivement acquis, mais il peut durer assez longtemps. Et puis la joie, qui est cette grâce, la joie, c'est quelque chose qui est formidable, parce qu'on ne peut pas le programmer. Vous pouvez programmer le plaisir. Vous pouvez vous dire, j'aime un café, je prends une tasse de café, j'ai du plaisir. J'aime tel film, je le regarde, j'ai du plaisir. Ça marche à tous les coups. Vous ne pouvez pas programmer la joie. Vous n'allez pas dire à votre conjoint « Tiens chérie, je vais me faire une petite joie dans le salon. » Il va trouver ça bizarre. Alors vous pouvez vous faire un petit plaisir, mais pas une petite joie. La joie, vous ne pouvez pas la programmer. Vous pouvez cultiver un terrain favorable à l'émergence de la joie. Et là, on pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire qui peuvent favoriser l'émergence de la joie. Comme la gratitude, l'attention, la bienveillance, il y a plein de choses qui peuvent le favoriser, mais ça vous tombe dessus. Vous ne pouvez pas le programmer. C'est pour ça que j'aime la joie, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est assez mystérieux dans la joie. Et c'est sans doute ce type d'incarnation du bonheur que je préfère. C'est pour ça que j'ai écrit, après avoir écrit « Du bonheur à l'âge philosophique », j'ai écrit « La puissance de la joie ». Et je l'ai écrit après avoir vécu un deuil très douloureux. J'ai perdu une compagne dans un accident très violent, et il s'est passé quelque chose de très mystérieux, c'est que lorsque j'ai accepté ce qui s'est passé, il m'a fallu plusieurs jours pour au fond dire oui à ce deuil soudain, et lorsque j'ai accepté la vie avec ses hauts, ses bas, avec la mort, et bien à ce moment-là, une joie m'est tombée dessus. Et il y avait dans mon cœur, pendant des mois, et encore toujours, un mélange de tristesse et de joie. Et la joie est venue comme une forme de grâce qui accompagnait ce mouvement d'ouverture du cœur et d'acceptation de la vie. Et je crois que la joie est très liée à une acceptation profonde du réel et de la vie. Et c'est peut-être ce que je recherche de plus en plus.
Merci. Mais justement, je voulais réagir à ce que tu viens de dire. Tu parlais de cultiver un terrain favorable par rapport à c'est important de mettre les mots corrects, en tout cas qui nous semblent corrects, la joie, le plaisir, le bonheur, la sérénité. Et tu parlais de quelque chose qui est très important pour nous en médecine, en psychologie, c'est la notion d'état émergent. On a ça avec les insomniaques. Ça paraît loin du bonheur, mais c'est pas si loin que ça. Et s'il y a des insomniaques dans la salle, ils comprennent bien ce que je veux dire. Lorsqu'on veut dormir, en général, on s'y prend mal parce que justement, on veut dormir. Et plus je me tends vers l'obtention d'un résultat qui serait l'endormissement, l'assoupissement et le sommeil, et plus évidemment je vais le faire fuir, puisque le sommeil ne peut naître que d'une émergence d'un état cérébral que je ne contrôle pas, tout comme je ne peux pas dire « chérie, tu vas être joyeuse » ou « je vais être joyeux », je ne peux pas dire à mon cerveau « endors-toi », ça ne marche pas comme ça, mais je peux créer les conditions favorables à l'émergence de cet état de sommeil, ne pas avoir consulté d'écran pendant 2 heures auparavant, avoir fait un peu d'exercice physique dans la journée, la pièce n'est pas trop chaude, elle est suffisamment sombre, etc. Et le bonheur, c'est vrai que c'est la même chose. On ne peut pas décider d'être heureux, mais on peut créer des conditions qui nous permettront de l'être au moment où, effectivement, quelque chose aura lieu dans notre vie. Voilà un petit peu, je voulais reprendre cet élément-là, mais on va pouvoir continuer d'en discuter. Je vais compléter rapidement notre petit tour de présentation, puis après on parlera plus librement. Donc, moi je suis médecin, et comme toi Frédéric, je n'étais pas très doué pour le bonheur, enfin je ne le suis toujours pas, mais comme je suis un bon élève, j'ai travaillé, j'ai fait des progrès, tout ce que vous voudrez, et finalement avec le recul, je m'aperçois que j'ai choisi de devenir médecin psychiatre, sans doute pour chercher à rattraper mon retard et mon incompétence, à compenser mon incompétence en matière de bonheur. Manque de chance. La psychiatrie, c'est une spécialité où on ne rencontre que des gens malheureux. Et donc, j'ai compris rapidement que j'avais peut-être fait relativement fausse route, sauf que, bien sûr, ces gens malheureux ne rêvent que d'une chose, d'être heureux. Parce qu'on souffre d'anxiété, de dépression, d'addiction. En fait, on adorerait se débarrasser de tout ça pour toucher à un petit peu plus de bonheur. Donc, peu à peu, dans ma façon de pratiquer mon métier, la psychiatrie, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la prévention des rechutes, c'est-à-dire non seulement dans l'unité dont je m'occupais, nous tâchions de guérir les problèmes psychiatriques, émotionnels de nos patients, mais une fois qu'ils étaient guéris, on essayait de faire qu'ils ne rechutent pas, que ça ne revienne pas, puisque vous savez que beaucoup de choses en médecine, malheureusement, ont tendance à revenir, et en psychiatrie, c'est quasiment la règle, la tendance aux récurrences ou aux récidives. Et donc là, je me suis aperçu, en regardant un peu la littérature scientifique, et puis en pratiquant mon métier, que si on arrivait à aider les gens à être plus heureux, si on arrivait à les guider vers une plus grande capacité à se rendre heureux, extraire des petits instants agréables de leur vie, eh bien, ça avait un effet protecteur par rapport aux rechutes anxieuses ou dépressives. Ça les atténuait, ça les écartait, et dans les meilleurs des cas, finalement, ils arrivaient à une autre vision du monde qui leur permettait de s'en prémunir. Et c'est dans ce cadre que, dans notre unité, donc, on a développé toutes ces approches dont je vous parlerai certainement ce soir, tournant autour de la méditation et tournant autour de la psychologie positive. Voilà. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Et pour en venir à une façon de définir le bonheur, moi, je vous livrerai l'équation qu'on proposait à nos patients. On cherchait à ce que les choses soient simples et opérationnelles, utilisables. Évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça, mais vous connaissez la formule célèbre de Paul Valéry, hein, ce qui est simple et faux, et ce qui est compliqué est inutilisable. Donc on cherche quelque chose qui soit entre les deux, qui ne soit ni trop faux ni trop inutilisable. Et donc on a proposé une définition, une équation du bonheur qui consistait à dire le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. Là, ça rejoint un petit peu ce que tu évoquais. C'est-à-dire que le bien-être, c'est quelque chose de formidable. Être assis au soleil et regarder passer les nuages, c'est du bien-être. Boire une bière avec des amis, c'est du bien-être. se sentir vivant en écoutant un chant d'oiseau, manger un bon plat, tout ça c'est du bien-être, mais ça n'est que du bien-être. C'est mieux que du mal-être, c'est mieux que ne rien avoir à boire quand on a soif, être sous la pluie alors qu'on voudrait du soleil, etc. Mais c'est quelque chose qui ne va pas nous transformer. Le bien-être nous sécurise, nous apaise, nous fait du bien, mais 2 heures après, 2 jours après, 2 ans après, tout cela sera effacé. Ça n'aura rien construit ni rien bâti en moi. Si par contre je prends conscience de la chance que représente effectivement le fait d'être assis, de regarder le ciel bleu, le fait de boire une bière avec un ami, le fait d'avoir à manger, le fait de lire un livre intéressant, je me dis voilà, c'est bien, c'est agréable, mais c'est peut-être plus que ça, c'est peut-être une chance formidable que tu as à cet instant de regarder ces nuages, d'écouter ces oiseaux, etc. Et donc, lorsqu'on prend conscience du bien-être, du plaisir qu'il y a à exister, alors on transcende cette étape psychologique assez simple qu'est le bien-être, mais une fois de plus préférable au mal-être, en quelque chose de plus fort que nous allons peut-être mémoriser, qui va s'ajouter à notre stock d'expériences existentielles, qui est très précieux parce que c'est dans ce stock, c'est dans cette malle au trésor des bonheurs conscientisés, mémorisés, que nous irons puiser quand l'adversité sera là. Le grand problème que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie sur ça, sur cette question de la psychologie positive, de l'importance du bonheur pour aider nos patients, ça a été le procès en naïveté, en disant « tu es bien mignon Christophe, mais par rapport à la vraie maladie psychiatrique, au vrai problème, c'est des petits trucs sympas, mais un peu naïfs, un peu insuffisants. » En réalité, c'est ni naïf ni insuffisant, c'est vital. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la condition même de notre existence. Il y a une phrase de l'écrivain Paul Claudel que j'aime beaucoup, que je cite souvent, parce qu'elle me paraît particulièrement juste, c'est « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. » Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Ce que veut dire Claudel, c'est qu'en fait, en réalité, c'est un peu le but. On a envie d'être heureux, on poursuit des objectifs qui nous permettront d'être un peu plus heureux, mais que si le bonheur n'existait pas, la vie ne vaudrait pas la peine. Parce que la vie, si vous regardez, si vous écoutez les patients dépressifs, les personnes très déprimées, les maladies dépressives, moi quand j'écoute ces patients dépressifs, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, la vie c'est un truc épouvantable. La vie, c'est naître, c'est souffrir, et c'est mourir à la fin. Naissance, souffrance, 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 et mort. Les gens que j'aime souffrent, souffrent, souffrent et meurent. Nous tous ici, notre vie sera souffrance et mort. Ils ont raison. Je ne peux pas leur dire qu'ils ont tort, mais ils n'ont évidemment, est-ce que vous êtes en train de vous dire, qu'à moitié raison. Parce que, entre les moments de souffrance, il y a justement ces moments de bonheur qui nous permettent de traverser ces souffrances parce qu'on sait que quelque chose d'autre nous attend. Et au fond, la définition du malheur, c'est quand aucun bonheur ne nous semble plus jamais possible. Et c'est souvent ce qui nous arrive lorsqu'on est en deuil ou lorsqu'on est déprimé. Ces patients déprimés que j'aurais passé ma vie à soigner, entre autres, ce ne sont pas des délirants. Quand ils sont déprimés, ils n'inventent pas des adversités qui n'existent pas, mais ils ne voient que les adversités. Et ils ne voient pas tous les côtés plus lumineux, plus réconfortants, plus consolants, plus motivants de l'existence. Et au fond, ce que nous dit Claudel, le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie, c'est que c'est grâce au bonheur que nous pouvons affronter l'adversité. Et que le bonheur, ça n'est pas quelque chose qui serait une petite bulle protectrice dans laquelle nous réfugier pour ne pas voir la violence du monde, pour ne pas voir l'horreur du monde, pour croire qu'on ne sera jamais frappé par l'adversité, mais c'est une sorte d'énergie, de confiance, de croyance, pas à certains moments, aucune preuve que ça va arriver, mais on y croit, et qui nous donne la force de la supporter, cette adversité. Et donc, voilà, pour conclure sur mon rapport au bonheur, c'est vrai qu'il a été très guidé, très marqué par ce souci d'aider les personnes à construire davantage d'expériences, de moments de bonheur dans leur existence pour ne pas retomber régulièrement dans les souffrances et dans les maladies. Voilà. Donc, à passer ce petit tour de chauffe, en quelque sorte, on va simplement se mettre à discuter ensemble et tout à l'heure avec vous par rapport à tout ça. Sylvain, je ne sais pas si tu veux reprendre. Alors, excuse-moi. Je suis un super rabat-joie, mais vraiment, je suis un gros casse-pied. Je sais que c'est sympa pour le public d'applaudir les conférenciers à la fin de leurs interventions, que vous faites ça gentiment pour nous motiver. Si vous pouviez ne pas le faire et ne nous applaudir qu'à la fin, ça serait vraiment mieux. Si on le mérite...
Non !
Vous savez pourquoi ? D'abord parce que moi je trouve que ici on est très bien tous ensemble, il ne faut pas que ça ressemble à un plateau télé où on applaudit les bons mots. Et ça déforme nos cerveaux. Si on nous applaudit chaque fois qu'on dit un truc bien, on va se dire comment je pourrais faire avoir des punchlines, on va se transformer en politicien, en chômeur. Et on n'est pas venu pour ça, on est venu pour réfléchir, pour échanger avec vous. Donc voilà, je suis désolé d'être un peu casse-pied, mais par pitié, ne nous applaudissez pas à chaque fois qu'on a fini de parler. Désolé. Sylvain, tu voulais compléter ?
Oui, ce que je viens d'entendre de la bouche de Frédéric et de la Vienne, c'est-à-dire l'injection du concept d'harmonie dans la définition du bonheur, et puis ensuite, toi, ce que tu dis sur l'état de bien-être dont on prend conscience m'inspire deux choses. Alors si je peux me permettre formuler quelques éléments de méditation sur ce que je viens d'entendre. L'harmonie, ça m'intéresse beaucoup parce que moi je dois dire, non pas que je sois misanthrope, et si je le suis c'est parce que j'ai commencé la misanthropie par la contemplation moi-même dans mon miroir. L'harmonie, moi, je ne la vois pas du tout chez l'homme. Je vois au contraire la condition humaine, individuelle et sociétale, comme une immense contradiction du principe d'harmonie, une recherche éperdue d'une chose que l'humanité ne réussira jamais à atteindre. Je ne vois que désordre et entropie dans la grande aventure de l'homme collectif et de l'homme individuel. Mais le principe d'harmonie me passionne, et je comprends très bien que Frédéric Lenoir l'ait immédiatement convoqué dans sa peinture du bonheur. Et il est présent dans la constitution cosmique et naturelle. Et c'est pour cela peut-être que finalement la contemplation de la nature est une activité qui plaît à tout le monde. Je ne crois pas, enfin, à part Baudelaire qui s'amusait à dire qu'il haïssait la nature parce qu'il voulait jouer la sophistication du dandy qui se rétracte de toute possibilité organique par goût de la sophistication, mais tout ça, ce sont des postures. La contemplation de la nature, et d'ailleurs, je crois, je parle sous le contrôle du professeur de médecine, je crois qu'on a très bien analysé neurologiquement les effets, je ne sais pas quoi, du bruit de l'eau, de la couleur des feuilles et du chatoiement du soleil sur la peau, et que tout ça, en fait, est capté extraordinairement sans même qu'on en ait conscience par le corps et nous plonge dans des états de vibration tout à fait apaisantes. Alors l'harmonie cosmique qui a permis cette espèce de miracle dans le grain de poussière de l'univers, du jaillissement du vivant, cette complexité dont on n'a pas idée depuis l'insecte jusqu'au cétacé, cette extraordinaire correspondance que les poètes ont tellement bien décrit, voilà évidemment une harmonie à laquelle nous n'arrivons pas à atteindre, nous autres les hommes, dans nos constructions sociales. Je crois que peut-être il y a là l'une des grandes explications de notre malheur. Nous nous sentons comme déjetés de l'édifice général et vivant, comme si nous en étions exclus, parce que nous étions à la fois suffisamment géniaux pour le comprendre et même le maîtriser, mais incapables, hélas, de le rejoindre. Je parle de cet équilibre, de cette harmonie, comme si nous avions été exclus de la table des dieux et de la conversation des bêtes, des plantes, que finalement, dans toutes les théogonies antiques, les grands poètes campaient. Je crois que là, il y a une tristesse de l'homme. Alors, évidemment, parfois, il y a un poète qui comprend le caractère pythagoricien de l'harmonie. Il comprend très bien qu'il y a une vibration commune dans le plus petit chatoiement de la vie minuscule et dans l'écriture des constellations, et que finalement la manière dont s'organise la spirale d'un escargot et dont s'organise la spirale giratoire d'une nébuleuse répond aux mêmes lois mathématiques. Et tout cela est vrai, car au fond, quelques lois physiques ont présidé à l'élaboration des formes de vie les plus complexes, minérales, chimiques, botaniques, zoologiques et même sidérales. Ça, c'est la vieille pensée pythagoricienne que Victor Hugo, comme d'habitude, quand on a besoin d'une conclusion rapide, on fait référence à Totor. Victor Hugo, comme d'habitude, a résumé ça par une formule superbe qui pourrait prétendre que le parfum des aubépines est indifférent aux constellations. Alors voilà, là il avait parfaitement analysé cette idée de la fluidité, de la circulation fluide d'une écriture générale qui présidait à toutes les formes du réel. Elle est là l'harmonie, et certains d'entre nous qui aimons la nature, ce que nous faisons quand nous la regardons, quand nous la contemplons, quand nous partons bivouaquer ou nager en prenant des bains de mer, ou remonter une pente au petit matin avec des skis à peau de phoque, c'est cela que nous allons chercher. Et j'ajoute une petite chose pour apporter une nuance, peut-être pas, qui ne sera pas triste, mais qui sera un peu mélancolique. C'est que cette harmonie dont parle Frédéric Lenoir comme une des catégories essentielles de la définition du bonheur, malheureusement, elle n'est pas toujours perceptible, elle n'est pas toujours compréhensible, parce qu'une fois qu'on a dit que le parfum des aubépines ne pouvait pas être indifférent aux constellations, bon, la phrase est très belle, mais enfin, ce n'est pas non plus d'une efficacité absolue pour la compréhension du cosmos. Et je crois qu'il y a un deuxième problème dans la tentative d'approcher la contemplation de l'harmonie, c'est qu'au bout d'un moment, on est écrasé par trop de beauté, par trop de puissance. C'est une espèce de syndrome de Stendhal. Stendhal avait eu son syndrome en voyant la beauté des formes artistiques des cathédrales de Florence. Moi, j'ai un syndrome de Stendhal permanent dans la nature. Je suis écrasé par cette beauté, et l'écrasement de cette perfection absolue cosmique, quand je vois par exemple des méduses pélagiques s'allumer sur les traves de mon bateau devant l'île de Stromboli pendant que le volcan lance ses flammes sous la Voie lactée, vous comprenez, c'est un spectacle qui est tellement métaphysiquement esthétique que ça m'écrase. Et je pense davantage qu'à la phrase de Victor Hugo, je pense davantage à la pensée de Cioran, voilà un insomniaque, c'est un insomniaque de l'existence d'ailleurs, je pense davantage à Cioran quand je suis devant la beauté, qui disait: j'ai appris ce matin qu'il y avait 200 milliards d'étoiles, j'ai renoncé à faire ma toilette. Cioran était écrasé par le cosmos. Donc l'harmonie, oui, bien sûr, je comprends très bien qu'il faut absolument la saisir comme une flèche dans son carquois quand on veut attraper le bonheur, mais je m'en méfie beaucoup parce que parfois elle est un bloc de souffrance qui s'avale sur mes épaules. Et puis, un mot, si tu permets, qu'il se rendrait sur ton élaboration d'une définition par l'idée de l'état de bien-être et de conscience. Ce mot m'est difficile à comprendre, parce que dans tout ce que tu nous as brillamment exposé et que tu as parfois illustré, d'ailleurs par des exemples puisés dans la science médicale, c'est-à-dire en mêlant l'intuition du poète à l'efficacité du praticien, tout ce que tu as développé sur l'idée de l'état, de constance, de durée, me paraît une flottaison qui parfois m'est étrangère. Non pas du tout que je sois l'homme du court-circuit qui préfère la saccade aux états de flottaison. Moi, j'ai une parfaite conscience de l'importance de la durée des choses et de l'inscription dans la fluidité, dans l'éternel jaillissement d'imprévisibles nouveautés, comme le définissait Bergson dans l'énergie spirituelle, c'est-à-dire l'idée que toutes nos vies se passent par une conduite alluviale dans un long fleuve dont les alluvions sont les expériences et les captations de sensations qui se présentent devant nous. J'ai un grand respect pour l'idée de fluidité du temps et des existences, mais il se trouve que mes expériences de bonheur, je les ai vécues, je ne les ai jamais vécues comme des états de flottaison dans le bien-être. je n'ai jamais compris la grandeur de la dérive dans une espèce de perfection d'une substance temporelle. J'ai toujours cru que mon bonheur me frappait violemment, je l'ai toujours vécu violemment, quand il appartenait à la cessation d'un état de souffrance ou d'un état de manque ou d'un état de douleur. Et je suis plutôt du côté de cette saccade que du côté de la recherche du bonheur. C'est peut-être pour ça que j'ai pratiqué avec tant de bonheur les sports de montagne, parce qu'on souffre en montagne et on jouit de la cessation de la souffrance. Et cette cessation de la souffrance, elle ne requiert pas une grande sophistication du luxe. Elle demande simplement qu'on cesse d'avoir froid, qu'on cesse d'avoir faim et qu'on cesse d'avoir peur. La cessation de l'angoisse et la cessation de la douleur physique, c'est là où j'ai vécu les plus grandes électrocutions de bonheur. Un jour, je suis tombé par terre, j'ai fait une chute de 10 mètres, j'ai été très abîmé, j'ai failli mourir. Et alors j'ai trouvé une broue de coma, j'ai eu 26 fractures, je passais des mois à l'hôpital, peut-être 5, j'ai rencontré beaucoup de neuropsychiatres, enfin bon, je préférais les neuro que les psychiatres, parce qu'ils me faisaient un peu peur les psychiatres naturellement, puisque moi j'avais l'impression d'être un être de pure surface, j'avais pas envie qu'on commence à se pencher. J'avais peur que le psychiatre attrape le vertige en se penchant sur mon propre vide. C'était ça mon problème avec le psychiatre. Alors, par politesse, je leur disais, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mais s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Et alors, il se trouve qu'après cet accident, on m'a dit que je pouvais à nouveau marcher. Eh bien, j'ai été envahi d'un bonheur. Et il n'était pas un bien-être. Il était la cessation d'un état de souffrance.
C'est super. Je reviendrai tout à l'heure avec toi sur ta difficulté avec le concept d'harmonie. Et j'ai l'impression que tu as eu la difficulté avoir de la
beaucoup de difficultés
dans les activités humaines. Tu sens de réserver ça au monde animal, au monde végétal, au monde minéral, enfin à tout ce qui est finalement extra-humain. Alors que, par exemple, on va redonner la parole à Frédéric qui a lancé cette idée d'harmonie. Moi, par exemple, quand on fait des randonnées au Pays Basque, en été, qu'on est en fin d'après-midi, sur un petit sommet, que le soleil commence à se coucher, tout devient rose et on entend les cloches des troupeaux qui rentrent à l'étable, on voit les petits villages comme ça qui saupoudrent les vallées autour de nous. Je me sens connecté aux autres humains et il me semble que là il y a de l'harmonie et que je n'ai pas besoin qu'une quelconque souffrance s'interrompe pour être heureux. Donc il me semble, je vois bien ton équation de. C'est l'équation de l'intensité, finalement, alors que moi, je cherche l'équation de la durée. Donc, c'est sûr que ce sont des cheminements différents. Tu fais la face au nord, moi, je préfère suivre le sentier. D'ailleurs, quand je suis en montagne, j'adore les sentiers. J'aime pas trop les tout droits ou les parois. J'aime bien marcher sur un sentier qui est emprunté depuis des siècles par mes frères humains, et ça me fait du bien.
Tu fais pas la directissime polonaise, quoi, de la face nord des grandes jambes.
Ce que toi, tu dois chercher à faire.
Moi, je suis bien des directissimes.
Direct. Mais on va peut-être laisser Frédéric revenir sur l'harmonie.
Oui, tu as raison, parce que j'avais envie de revenir sur deux choses qu'a dit Sylvain. À la fois la nature, et puis la difficulté d'harmonie dans la cité. Donc la nature, je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui nous réunit tous les trois, on aime beaucoup profondément la nature et on y vit beaucoup, on y passe beaucoup de temps. Et moi, je crois que la plus grande expérience, enfin en tout cas le souvenir que j'ai, de la plus grande joie que j'ai eue enfant, c'est lorsque on vivait à la campagne, et c'est une grande chance, et il y avait une forêt derrière le jardin, et je sais pas, vers 7-8 ans, j'étais parti l'hiver, il y a eu une clairière avec un rayon de lumière, avec de la brume, et un faisan qui est parti. Et là, j'ai pleuré de joie. Mon cœur, mais j'étais en amour. C'est-à-dire, quand on me dit, quand est-ce que tu es tombé amoureux la première fois, ben, j'ai dit, c'était de la nature,
un faisan
exactement. Donc, c'est une rencontre amoureuse avec la nature, avec le monde, avec la beauté. Et contrairement à toi, Sylvain, ça ne m'a jamais écrasé. J'ai jamais ressenti trop de beauté. Je passe beaucoup de temps, plus de 6 mois par an, dans une petite maison pêcheur en bord de mer en Corse, et je peux passer des heures à regarder le ciel étoilé parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse, ça ne m'écrase jamais. Je ne ressens pas de vertige ni d'écrasement de la beauté du monde. Je peux passer des heures à regarder la mer. Je suis vraiment toujours ému par la beauté du monde. Et ça me... Voilà, donc c'est la première fois que j'entends dire, tu vois, qu'on peut être écrasé par trop d'harmonie ou trop de beauté. Donc ça m'interroge. Je vais y réfléchir parce que du coup, y réfléchissant, je vais peut-être d'un coup sentir ce vertige. Il suffit d'en prendre conscience que c'est possible. Mais en tout cas, ça ne m'a jamais pesé. Et par contre, sur la question de l'harmonie, la quasi impossibilité de trouver l'harmonie chez les humains et dans la cité, là, je te rejoins, on est sur quelque chose qui montre bien à quel point il est difficile de trouver la paix. C'est ce que recherchaient tous les philosophes. C'est comment, déjà les philosophes grecs recherchaient comment, dans des petites cités, arriver à trouver la paix, la concorde. Et puis les philosophes des Lumières sont posés la même question dans des univers beaucoup plus vastes. Et la question reste entière. Et aujourd'hui, elle est très inquiétante parce que toute la philosophie des Lumières visait à créer un système démocratique qui permet justement un contrat social qui nous permette de vivre le mieux possible dans la paix. Eh bien, on constate que nos démocraties sont dans une crise très profonde et que, au contraire, cette paix et cette harmonie semblent s'éloigner de plus en plus. Alors moi, le constat que je fais, là, je suis un disciple de Spinoza. Spinoza, c'est quand même extrêmement intéressant parce que c'est sans doute le premier philosophe des Lumières, c'est-à-dire un siècle avant Kant et Voltaire, au XVIIe siècle, il va être l'inventeur des démocraties modernes. C'est-à-dire qu'il va dire le meilleur système politique, c'est un état de droit, on sépare le religieux du politique, on garantit la liberté de conscience et d'expression, et on élit de manière démocratique nos dirigeants. Donc il définit le politique moderne. Et il rajoutera dans un autre livre, l'éthique, quelque chose de très intéressant. Il dira les démocraties qui n'existaient pas encore, hein, c'était deux siècles avant, les démocraties ne pourront fonctionner que si les citoyens sont des philosophes. C'est-à-dire que s'ils réfléchissent et qu'ils dépassent leurs pulsions et leurs affects. Parce que s'ils ne fonctionnent qu'avec leurs désirs, leurs pulsions, leurs affects, il y aura en permanence des discordances. On ne pourra pas s'accorder sur un langage commun. Et par ailleurs, nous allons élire nos dirigeants avec nos passions tristes, avec nos peurs, avec nos ressentiments, avec nos jalousies, avec nos colères. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des gens qui votent pour des régimes autoritaires parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en colère, parce qu'il y a du ressentiment. Et donc, il avait parfaitement vu la crise moderne de nos démocraties. Donc, ce qui nous manque le plus, c'est la philosophie. Parce que je suis convaincu, c'est pour ça que je fais de la philosophie depuis très très longtemps, que c'est le langage commun de l'être humain qui nous permet de nous accorder, quels que soient nos différents affects, on a des caractères différents, des personnalités différentes, des goûts différents, des envies différentes, mais on peut avoir ce langage commun. On a des religions différentes, des croyances différentes, mais la raison est universelle. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Et c'est pour ça que j'ai développé des ateliers de philosophie avec les enfants. Parce que je pense que c'est l'éducation qui est la clé de tout. Et que c'est à partir du moment où, dès l'éducation, on introduit, comme le désirait Montaigne, Montaigne nous disait au XVIe siècle, l'éducation vise à faire des têtes bien pleines, il vaudrait mieux faire des têtes bien faites. C'est-à-dire apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, à réfléchir, à développer un esprit critique, un jugement personnel, pour ne pas être formaté par toutes les injonctions sociales et pas répéter ce qu'ils entendent à la maison. Qu'ils se fassent une opinion personnelle qui leur permette de juger, de discerner, de critiquer. Ça n'a jamais été aussi vrai de nos jours. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il faut un discernement, il faut un esprit critique. Et donc, ce langage universel de la philosophie, je me suis dit, il y a une dizaine d'années, il faut le développer à travers des ateliers de philosophie avec les enfants, dans lesquels on ne fait pas des cours de philo, on les fait philosopher, on les fait réfléchir. Platon nous dit, la philosophie commence avec l'étonnement, et de l'étonnement vient l'interrogation, le questionnement, et après l'argumentation, et après on théorise, on apprend. Et donc tout le processus de la philosophie commence avec l'enfant qui s'étonne. Pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement? Eh bien, de là, on peut faire un atelier de philosophie formidable. Et je voudrais donner un exemple qui vous montrer à quel point la philosophie est un langage universel. J'ai fait un atelier de philo avec des enfants quelques jours après les attentats du Bataclan. Le thème que les enfants avaient choisi, c'était des enfants de 9 ans, CM1. Le thème qu'ils avaient choisi, c'était « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Et je me suis dit, on va parler de ça quelques jours après. Donc on avait tout à fait autre chose en tête. Mais les enfants, pas du tout. Et ils ont dit, on veut
continuer de parler de ça malgré tout ce qui s'est passé. Les premiers enfants qui commencent à parler, on leur pose la question, moi je ne m'interviens pas, je fais circuler la parole, ils me disent réussir sa vie, c'est être heureux. Question du bonheur. Si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et d'ailleurs, nos parents nous disent, on veut que tu sois heureux. Donc il faut que tu réussisses ta vie, il faut que tu sois heureux. Donc le bonheur est associé à la réussite de la vie. Presque tous les enfants sont d'accord avec ça, sauf un, qui dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi ? C'est là que l'atelier philo devient intéressant. Il dit, regardez les terroristes qui ont tué des gens. Ils sont morts heureux. Ils pensaient aller au paradis. Et donc ces gens-là sont morts heureux, et pourtant ils ont tué un tas de gens. Et bien pour moi, ils ont raté leur vie. Bien qu'ils soient heureux, ils ont raté leur vie parce qu'ils ont fait leur bonheur sur le malheur des autres, en faisant le malheur des autres. Donc il dit, je crois que réussir sa vie, c'est être heureux, sans faire le mal, en respectant les autres, en tenant compte des autres. Et il a changé, la classe s'est retournée. Et presque tous ont dit, t'as raison. Les riches, par exemple, ceux qui partagent, ils ont réussi leur vie. Mais les riches qui sont égoïstes, ils ont raté leur vie. Et donc, ils ont élargi la notion de réussite de vie à la notion de justice et de respect. Alors je dis à ce petit garçon, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a vécu il y a 2500 ans, et qui a dit exactement la même chose. Il a dit, au fond, il faut distinguer la vie heureuse de la vie bonne. On peut être heureux assez égoïstement. Ce n'est pas le sommet de la philosophie. Ce qui est le sommet, c'est la vie bonne, c'est-à-dire agir selon le bien, c'est-à-dire être heureux en pratiquant la justice. Et ce petit garçon me répond, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et il a totalement raison. Il pense comme Socrate et Socrate pense comme lui parce que la raison est universelle. Parce que dans toutes les cultures du monde, on peut être bouddhiste, on peut être chinois et penser, arriver aux mêmes conclusions par la même expérience, par les mêmes raisonnements. Et donc c'est pour ça que je suis convaincu que si tous les enfants du monde faisaient de la philosophie, mais le monde changerait en une génération. Et donc cette association que j'ai créée s'appelle Sèvres, Savoir être et vivre ensemble. On a déjà formé 6000 animateurs qui font des ateliers philo. On a fait des... Il y a plus de 300 000 enfants qui ont été touchés. On développe de plus en plus. Et après, je me suis dit, mais c'est très bien que les enfants fassent de la philo. Mais j'ai commencé à voir les parents qui venaient vers moi en disant, et nous ? Parce qu'il y a un père un jour qui m'appelle en disant, ça me pose des problèmes, là, vos ateliers de philo avec mes enfants. Parce que mon petit garçon, il rentre de l'école après l'atelier philo. Je lui dis, fais si. Il me dit, papa, argumente. Et donc là, il dit, il faut que je fasse de la philo aussi. Donc c'est pour ça que je viens de créer une école de philo, ça s'appelle la Maison des Sagesses. Et donc on essaye de faire de la philosophie en ligne, par des séminaires, pour que de plus en plus de gens puissent philosopher, puissent réfléchir, pour s'accorder. Au-delà, on a tous des différences, mais il faut s'accorder par un langage commun. Et je suis persuadé que ce langage commun qui nous manque tant aujourd'hui, c'est la philosophie.
Merci Frédéric, ça me rappelle...
Je ne sais pas, merci.
Ça me rappelle la manière dont le philosophe André Comte-Sponti définit la sagesse. La sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. On essaie d'additionner, de faire coexister ces deux idéaux. Sylvain, moi j'ai une question pour toi quand même, parce que tu as toutes les données dont on dispose dans nos recherches scientifiques sur le bonheur, le bien-être, ce qui rend les gens heureux quand même. Ce qui est cité le plus volontiers, il y a la nature bien sûr dont tu parlais, mais c'est le lien social. Et même par rapport à l'harmonie, il y a des émotions très très fortes qui naissent dans le cœur des humains lorsqu'ils contemplent non pas des choses qui sont belles au sens plastique, mais des actes d'altruisme, des actes d'entraide, des actes d'amour, des actes de bienveillance. Comment tu intègres ça à ta façon de te rapprocher du bonheur? Parce que finalement, tu insistes énormément tout de même sur quelque chose qui est de l'ordre de la solitude, de l'accès solitude et un petit peu à distance de tes semblables.
Je l'intègre avec beaucoup de lucidité, c'est-à-dire avec beaucoup de pessimisme. Je comprends très bien que l'une des impératifs, enfin, pas des impératifs, mais l'une des modalités du bonheur naissent de, appelons ça, la relation humaine. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la philanthropie, enfin l'altruisme. Alors premièrement, moi je vois l'exercice de la générosité comme le culminant lorsqu'il ne s'adresse pas forcément à ses semblables. Parce qu'il y a quelque chose de corporatiste dans l'amour de l'homme par l'homme. L'humanisme, c'est une forme de corporatisme. Tu comprends, les charcutiers sont pour les charcutiers, les notaires sont avec les notaires, les cheminots avec les cheminots, et les hommes avec les hommes. Il y a une forme de corporatisme. Ce qu'on aime aussi dans l'autre, c'est qu'il est une partie de soi-même, et qu'on s'y reconnaît. Et c'est pour ça que moi, l'amour filial, que je tiens pour un des plus belles expressions de l'amour, j'ai toujours à l'esprit quand même, et dans le coin de la conscience, qu'il y a une forme de narcissisme dans l'amour filial. Ce qu'on aime dans l'enfant, c'est qu'il porte une part de soi-même. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que ce soit le même terme qui désigne la perpétuation de l'espèce et la pratique des photocopieuses. Ça s'appelle la reproduction. Donc il y a un moment où il faut peut-être un tout petit peu être modeste avec cette idée que l'intégralité de la définition de la générosité serait qu'on se porte vers quelque chose qui est semblable en moi-même. Il y a parfois des êtres humains qui se sont portés et qui ont porté l'expression de la générosité vers ce qui n'appartenait pas au genre humain et non pas à leur genre. C'est tout de même, me semble-t-il, là une petite franchissement de plus dans l'exercice de la générosité. Alors ensuite...
Voilà. Vous m'entendez ? Même de façon occasionnelle, parce que moi, ce qui me frappe beaucoup dans tout ce qui concerne le bonheur, la bonté, la générosité, l'altruisme, c'est que très souvent, dans nos vies, ou dans la vie des humains, ce sont des phénomènes qui vont être intermittents dans leur expression. Il y a des jours où on y arrive, des jours où on n'y arrive pas. Et est-ce que ça n'est pas, au fond, la possibilité de reconnaître que c'est important, que ça existe, et en comprenant que ça ne peut pas être un état constant et permanent.
Pour moi, la question de l'administration de sa charité, comme on disait autrefois, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit, l'expression de la solidarité, c'est la même chose, appartient tellement à la sphère intime et privée que j'ai beaucoup de mal à en faire un sujet de conversation en général et de conférence en particulier. C'est-à-dire que je trouve que la générosité ne s'opère vraiment dans toute la vastitude de sa beauté que lorsqu'elle est silencieuse. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais j'ai pas évidemment envie qu'on me prenne pour un racorni. Moi aussi, j'ai mon exercice de la charité. Mais je le tiens absolument dans la sphère de l'intimité pure et du silence. C'est-à-dire que je n'en tire même pas les fruits sociaux et médiatiques. C'est dommage, mais je ne suis pas un pharisien. Alors après, oui, on peut émettre des théories, bien sûr, qui nous épargnent de tenir la comptabilité de son exercice de la charité. En tout cas, moi, je ne veux pas parler de ça, je préfère m'intéresser, non pas du tout que je dénie l'importance de l'interaction, de l'action, du lien humain, non pas que j'en dénie l'importance dans la constitution de soi-même et l'accession au bonheur. Bien entendu, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis là-dessus, mais j'aurais pu beaucoup à en parler parce que je préfère m'intéresser à d'autres voies possibles dans l'aventure humaine qui ont mené l'homme à sortir de lui-même et ce qui était la reconnaissance permanente de son semblable. Cela dit, une fois que j'ai dit ça, j'ajoute quand même quelque chose à ma décharge pour faire ma plaidoirie, après avoir laissé penser que je pouvais être un cœur sec. Moi, je tiens un très fort commerce avec mes semblables, mais que je diffère, parce que je trouve qu'il y a dans l'écriture, et vous en savez quelque chose, puisque vous êtes tous les deux des écrivains, il y a dans l'écriture une extraordinaire conversation que l'on mène avec des êtres. Alors certes, ils n'existent pas, certes, ils sont potentiellement existants. On espère qu'on aura des lecteurs, on n'en a pas toujours, parfois on en a, ça dépend des moments de sa vie d'écrivain, parfois on en a plus que d'autres, il y a de temps en temps des fortunes, de la grâce commerciale qui font qu'on est davantage entouré que d'autres fois, mais en général, même quand on commençait et qu'on était très peu lu, il y avait un acte extrêmement, sinon généreux, du moins, qui était profondément humaniste de différer son... sa conversation, sa confidence avec des êtres potentiels, en puissance, qui étaient les lecteurs. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'aimerais bien peut-être qu'on dise que parmi les trois ordres, finalement, de satisfaction que vous avez définis brillamment, c'est-à-dire la joie, le plaisir, le bonheur, on pourrait presque dire que chacun correspond à des étages de la fusée de la conscience humaine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de définition physique du bonheur, une définition psychologique et une définition intellectuelle. La définition intellectuelle du bonheur, elle est intéressante parce qu'elle nous ramène à l'idée de volonté. C'est-à-dire que moi, contrairement à ce que disait tout à l'heure Frédéric Lenoir, je pense qu'il faut quand même réfléchir à l'idée que le bonheur peut quand même, non pas se commander bien sûr, et au fond, c'est vrai que, hélas, l'expérience te donnera raison par rapport à ce que je viens de dire, mais parfois, le bonheur est tout de même quelque chose que l'on peut convoquer. C'est la phrase de Tolstoï, de je ne sais plus quel écrivain, qui disait « Vous voulez être heureux, virgule, soyez-le ». C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un exercice de la volonté qui permet d'essayer quand même de se convaincre qu'on est heureux et que peut-être par la pratique et par l'autoconviction de cet état de bonheur, on finira par l'être. C'est un peu comme les prêtres vous disent que la foi viendra quand vous aurez suffisamment prié. Eh bien, quand vous aurez suffisamment dit que vous êtes heureux, peut-être que le bonheur vous visitera. Or, dans cette conduite de la volonté intellectuelle de convocation du bonheur, moi, j'ai une petite technique qui me relie aux autres, profondément, par la pensée. Pas par la conversation organique et virtuelle telle que celle que nous sommes en train de mener, ni par le contact tangible, bien que je n'en réduise pas tous les bénéfices dans l'ordre de la volupté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, pour moi, le commerce et la conversation que je tiens avec les autres, elle est de l'ordre de la mémoire et de la pensée. Je suis entouré de fantômes. Je vis avec les êtres, mais je n'ai pas besoin de les voir. Je n'ai pas besoin de les toucher, je n'ai pas besoin de leur parler, et je suis prêt à faire 10 000 kilomètres pour les éviter. Moi, j'aime me rétracter loin des masses humaines et très loin des manifestations de l'humanité, par exemple des manifestations architecturales. J'aime m'enfoncer dans les natures solitaires, j'aime l'hostilité des lieux, j'aime la géographie de la désolation parce qu'il n'y a pas d'hommes, mais ça n'est pas pour ça que je n'aime pas les hommes, parce que j'ai quand même une boîte en os qui est très peuplée, dans laquelle il y a beaucoup de monde. Comme disait le poète Novalis, ce romantique merveilleux, on vit seul avec tout ce qu'on aime. Eh bien, moi, j'aime beaucoup de gens, mais je ne les vois pas beaucoup, je ne les touche pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup besoin de leur parler, j'ai parfois besoin de les provoquer, de leur faire croire que je suis le citron sur l'œil de l'huître, parce que j'aime bien les comportements et les conversations un peu électriques, mais je n'ai pas besoin du frottement absolu avec le troupeau des gnous pour me faire croire que je suis un humaniste qui aime les hommes. Et je conclue en disant trois choses, c'est que pour être heureux, moi je pratique un exercice intellectuel de relativisation de mon état de souffrance. Relativisation spatiale, temporelle et biologique. Spatiale parce que je me dis, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai beaucoup vu le malheur absolu de l'homme. Et je me dis qu'ici, quand je suis à Chalon-sur-Saône ou quand je vais revenir chez moi à Paris, bien évidemment, je suis beaucoup plus heureux que toutes ces femmes avec qui j'ai vécu, que j'ai aidé, avec qui j'ai travaillé, que j'ai tellement côtoyé, par exemple en Afghanistan ou au Pakistan. Ensuite, j'ai une relativisation d'ordre historique. Je me suis intéressé à un moment, moi, aux souffrances de la Grande Armée qui était partie, 500 000 hommes de Moscou pour essayer de regagner la France. Et 400 000 sont morts dans des circonstances physiques absolument épouvantables. Eh bien, la lecture permanente de ces grands malheurs de l'histoire me fait relativiser temporellement mon pauvre petit état quand j'ai mal au genou ou quand j'ai une écharpe sous l'ongle. Et puis, la troisième relativisation, donc toujours intellectuelle, l'exercice de ma volonté, c'est la relativisation biologique. Je connais les bêtes, Je sais quelle est leur souffrance, je sais qu'elle est silencieuse, ça m'étreint, ça me tord le cœur, j'y pense souvent. Je crois que c'est un forfait immense de l'homme de rajouter à sa grande passion de la cruauté l'indifférence profonde à la souffrance des animaux. Et ces trois types de relativisation spatio-temporelle et biologique me permettent de maintenir un contact permanent, contrairement à ce que peut croire celui qui me rencontre et qui pense que je suis un solitaire misanthrope. C'est un contact permanent avec mes semblables.
Merci beaucoup.
j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça fait écho à pas mal de choses de mon expérience, notamment les animaux. J'aime beaucoup cette phrase de Schopenhauer qui disait déjà au 19e siècle, le sommet de la conscience morale, ce n'est pas de respecter ou d'aimer les êtres humains, c'est d'aimer ou de respecter les animaux. Parce que, comme tu l'as dit très justement, et j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai que l'humanisme est une forme de corporatisme. C'est facile d'aimer ses semblables, c'est pas toujours facile, hein. Mais disons qu'on aime plutôt nos proches et puis après nos voisins, bon, c'est pas toujours facile non plus. Mais, et puis les étrangers, c'est plus compliqué, etc. Mais aimer des êtres d'une autre espèce et les respecter, c'est-à-dire respecter leur aspiration au bonheur, ne pas les faire souffrir, c'est quelque chose effectivement qui est beaucoup plus moral. Et donc là-dessus, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité avec cette conscience qui s'éveille à la souffrance animale, c'est un vrai progrès moral de l'humanité. Il y a encore un boulot dingue à faire, mais par rapport à ce que ça a été pendant des millénaires, il y a quelque chose qui se passe qui me paraît très important. Et moi, je vis entouré d'animaux, et combien la relation avec les animaux me nourrit, me donne de la joie, me donne du plaisir, m'équilibre. Et je vois à quel point les animaux, on peut leur donner beaucoup de choses, ils nous donnent beaucoup de choses. Et puis, ce que tu disais sur la volonté paraît extrêmement important aussi. C'est que c'est vrai que je parlais de la joie comme une grâce, tout en disant qu'en même temps, il faut savoir cultiver un terrain favorable. Donc, il s'agit de... On est un peu responsable, hein, bien sûr, de la joie qu'on va avoir ou du bonheur, comme tu le rappelais, Christophe, qui se construit aussi par des actes. Et là, je trouve qu'il y a une philosophie qui nous éclaire beaucoup là-dessus, c'est le stoïcisme. Et je trouve que dans ce que tu as dit, il y a des élans stoïciens extrêmement forts, y compris la relativité. C'est-à-dire que Marc Aurèle, dans ses pensées, nous dit qu'il faut prendre du recul, il faut se regarder la Terre comme un point dans l'espace et c'est rien. Et il faut que moi, Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, je me regarde comme étant rien à l'échelle de l'histoire. C'est une seconde qui passe et donc ça permet de relativiser énormément de choses et de prendre du recul. Et puis dans le stoïcisme, il y a cette notion de volonté qui est très forte. Puisque vous savez que le bonheur pour les stoïciens, c'est de distinguer, au fond, d'abord ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui dépend de nous, on peut essayer de l'améliorer, de le changer, on peut travailler sur nos émotions, sur notre regard, on peut faire plein de choses, on peut agir lorsqu'il y a une injustice, et puis lorsque ça ne dépend absolument pas de nous, mieux vaut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et là, les stoïciens nous disent qu'au fond, le bonheur et le malheur, c'est ce que dit Épictète, ne dépend pas tant des choses extérieures que du regard qu'on porte sur eux. Et là, il y a quelque chose de très profond, mais qui n'est pas facile du tout à mettre en pratique, c'est que nous sommes tout le temps malheureux ou heureux de ce qui arrive de l'extérieur. Donc, j'ai un désir qui est contrarié, je suis malheureux. Le monde résiste à mon désir. Il m'arrive un problème de santé, je suis malheureux. J'échoue un examen, je suis malheureux. Donc, on peut dire, c'est un mal, c'est un bien en fonction de nos désirs, de nos aspirations. Et ils nous disent, le bien et le mal, le bonheur et le malheur ne sont pas dans les événements extérieurs. Le bien et le mal ne sont que dans l'intention morale et le bonheur et le malheur ne sont que dans nos représentations. Autrement dit, ça veut dire que c'est face à une difficulté, je peux changer mon regard. Et l'un verra dans une épreuve de vie, une maladie, quelque chose d'épouvantable qui va l'effondrer. L'autre y verra l'opportunité de grandir, de découvrir quelque chose, de s'améliorer, ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui. Et donc là, je serais d'ailleurs content que tu nous en parles, parce que c'est un sujet majeur. Et donc, la possibilité de voir dans le danger une opportunité. Ce que les Chinois ont très bien défini, puisque vous savez que le mot « crise » en chinois, ce sont deux idéogrammes, l'un qui veut dire « danger » et l'autre « opportunité ». Dans la crise, il y a un danger, on se sent en insécurité, mais il y a peut-être une opportunité de changer, de vivre autrement, de changer notre regard. Et donc, les stoïciens nous disent, ce qui nous rend heureux, malheureux, c'est le regard qu'on porte sur les choses. La mort peut être vécue comme quelque chose d'insupportable pour certains et comme une délivrance pour d'autres. Donc ce n'est pas la mort qui est un mal en soi, c'est le regard qu'on porte qui en fera un mal ou un bien. Et ça, je crois que c'est un travail profond de la volonté. Et donc on convertit le désir en volonté et on arrive du coup à se construire, comme le veut Marc Aurèle, une forteresse, une citadelle intérieure qui fait qu'au fond, on est moins affecté par les événements extérieurs en soi, on ne porte pas de jugement sur eux en disant ça c'est un bien, ça c'est un mal. Non, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais en faire un bien ou est-ce que je vais en faire un mal? Et là, on a vraiment, je pense, une philosophie très exigeante, très difficile, qui nous décale complètement par rapport à ce qu'on pense habituellement, mais qui est une philosophie de la responsabilité. Nous sommes fondamentalement responsables, pour les stoïciens, de notre malheur ou notre bonheur, parce que nous sommes responsables de la représentation, du regard que nous portons sur le monde et sur les choses.
Merci Frédéric. Je rappelle que Frédéric vient d'écrire un très beau livre sur Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, et que j'ai beaucoup aimé, comme beaucoup de monde a beaucoup aimé.
Parce que je sais que tu es passionné par Marc Aurèle, tu es un amoureux de Marc Aurèle.
Complètement, c'est une figure historique et philosophique que j'aime beaucoup. Les gars, je ne suis pas d'accord avec vous sur cette histoire des animaux. Alors, vous avez l'air de dire que finalement la facilité c'est d'aimer les humains et qu'il faut faire l'effort de se tourner vers les animaux. Mais moi j'ai l'impression que c'est l'inverse, que c'est plus facile d'aimer son chat, son chien, un héron qui passe dans le ciel, un tigre, un éléphant, parce qu'il ne nous demande rien, on n'aura jamais à partager sa brosse à dents ou son petit déjeuner avec eux. Et que le plus dur, c'est d'aimer les humains. Et c'est, je ne sais plus quel humoriste disait, au fond, un ami, c'est quelqu'un dont on connaît tous les défauts, mais on l'aime quand même. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de beau dans l'altruisme, la bienveillance, etc., c'est que c'est dur. C'est dur d'aimer son conjoint, d'aimer ses amis, d'aimer ses patients, parce qu'ils sont imparfaits. Parce qu'il y a des jours où ils sont casse-pieds, parce qu'ils ne font pas ce qui nous semble être une bonne chose, et que moi je trouve que l'humanisme, ce n'est pas un corporatisme, même si c'est une belle formule et qu'on voit bien la portée pédagogique, mais c'est quelque chose de. C'est une forme de. C'est une assise de la générosité, de la bienveillance. C'est-à-dire, je suis pénible, ils sont pénibles, mais il y a quand même des côtés admirable, formidable chez ces autres humains et leur grandeur, ma grandeur, c'est de passer outre et de s'aimer, de se respecter, de se vouloir du bien quand même. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec vous, même si j'aime beaucoup les animaux, tout ce que vous voudrez. Mais... L'autre chose, Frédéric, par rapport à ce que tu disais sur Marc Aurèle, nous, en psychothérapie, notamment ce qu'on appelle la psychothérapie cognitive, c'est une source d'inspiration considérable, les stoïciens, parce qu'effectivement, ils nous aident à comprendre que ce qui nous blesse dans le réel, d'ailleurs, le sujet de notre conférence, c'est le bonheur à l'épreuve du réel, il va falloir qu'on en parle, il ne faut pas oublier quand même comment on se débrouille quand le réel nous blesse, heurte, mord, déçoit, est scandaleux, est horrible, mais... Ce n'est pas seulement le réel qui nous fait mal, mais c'est ce qu'on s'en dit. Mais le réel, il peut nous faire mal quand même. En médecine, on a le modèle de la douleur et de la souffrance. Une façon simple de faire la différence entre les deux, parce que ce n'est pas la même chose. La douleur, c'est vraiment le tangible. La douleur d'un deuil, c'est que quelqu'un est mort pour de vrai. Ce n'est pas que j'ai peur qu'il meure, c'est que la personne est morte. La douleur d'une rage de dents, c'est que mon nerf, le nerf dentaire, de ma molaire arrière-gauche, il est à vif, il est complètement attaqué par une inflammation, et ça n'a rien d'imaginaire, c'est du tangible. Et ces douleurs vont avoir un impact psychologique, parfois existentiel, qui s'appelle la souffrance. Et effectivement, sur cette souffrance, on a une petite ou grande marge de manœuvre selon l'intensité des douleurs, selon notre entraînement, etc. Et c'est ça qui rend étrange la lecture de certains philosophes stoïciens, quand ils expliquent, alors ils ne le disent pas aussi brutalement que ça, pas Marc Aurèle, mais certains disent, voilà, ton enfant est mort, ben, ton enfant est mort, de toute façon, il serait mort un jour, le sort de tous les humains est mauvais, en fait. C'est presque ça, quand même, si on lit rapidement. Et donc, c'est comme s'il disait, ben, tout est maîtrisable. La souffrance, bien sûr, ton chagrin, et aussi la douleur, finalement, la douleur du deuil, la douleur de la blessure. Et ça, pour... voilà, cette... je ne sais pas, j'aimerais savoir comment tu fais avec ça, Frédéric, mais pour les thérapeutes, c'est compliqué quand même d'aller, d'être stoïcien jusqu'au bout.
Parce que je crois qu'il y a deux interprétations différentes du stoïcisme, et tu mets très bien le doigt dessus. C'est qu'il y a une interprétation radicale qu'on peut trouver des fois un peu chez Epictète, hein, c'est-à-dire Epictète, on lui casse la jambe et il sourit en disant « tu me fais mal ».
Tu vas la casser.
Tu vas la casser.
Je te préviens, si tu continues, tu vas la casser. Crac.
Bon, il est stoïque au sens où même cette douleur-là, il faut tout à fait la surmonter. Et je trouve que Marc Aurèle est très différent. Marc Aurèle a beaucoup d'émotions, Marc Aurèle est un affectif. Et donc Marc Aurèle, il pleure profondément la mort de ses proches. Il pleure la mort de ses enfants, il a pleuré la mort de son précepteur qu'il a élevé enfant, qui était comme une mère pour lui. Il a pleuré en public, on le lui a reproché, les sénateurs lui ont reproché. Et Antonin, qui était à ce moment-là l'empereur, lui, allait devenir empereur ensuite, l'a défendu en disant « ça prouve qu'il a du cœur ». Donc en fait, quand on lit bien Marc Aurèle, on voit qu'il distingue tout à fait la douleur et la souffrance. C'est-à-dire qu'il assume parfaitement la douleur, c'est un être qui souffre, c'est un être qui reconnaît cette souffrance, mais, enfin cette douleur plutôt, et c'est un être qui essaye en même temps d'accepter la réalité, lorsqu'on ne peut pas la changer, de dire oui à la vie. Et donc là, il n'est pas dans la souffrance morale du refus de la vie. Et donc je trouve que chez Marc Aurèle, il y a une nuance très importante que tu soulignes, qui est cette distinction entre la douleur et la souffrance, c'est-à-dire qu'il souffre, il pleure, il a des émotions, il les assume, et en même temps, il accepte, il dit oui, et du coup, il ne veut pas souffrir doublement. Il y aura juste la douleur, mais il n'y aura pas la souffrance morale du refus de la douleur, du refus de l'épreuve.
Et il y a quelque chose d'autre que j'aime beaucoup chez Marc Aurèle, c'est qu'il, vous savez, Marc Aurèle, il a écrit un seul livre qui n'était même pas destiné à être publié, qui était ses notes, son journal de bord. Et ça commence, alors on ne sait pas si c'est par ça qu'il l'aurait fait commencer lui-même, puisque j'ai appris en te disant que ça avait été recomposé après sa mort, mais ça commence par 4-5 pages de gratitude. Il remercie toutes les personnes qui lui ont apporté quelque chose. Alors, il y a peut-être un peu de l'exercice de style officiel, il y a un peu erreur quand même, ces choses se font, mais comme tu le dis, Frédéric, il y a quelque chose aussi de sincère. Et ça encore, c'est pour nous, les thérapeutes, quelque chose de très important dans la galaxie du bonheur, des choses qui peuvent nous rendre heureux, c'est la pratique de la gratitude. C'est-à-dire, de temps en temps, réfléchir, se dire au fond, tous les bonheurs que je traverse, que j'arrive à faire apparaître dans ma vie, que j'arrive à me rendre conscient, que j'arrive à conquérir, eh bien, en partie au moins, et parfois en grande partie, je les dois à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui m'ont initié, qui m'ont montré, qui m'ont appris, qui m'ont soutenu. Et là encore, c'est quelque chose qui va amplifier notre bonheur, de prendre conscience de ces liens, parfois invisibles, mais de pratiquer cette gratitude. Non seulement je suis heureux, mais je suis en lien avec quelqu'un qui m'a permis une partie de cet accès au bonheur. Tu le ressens ça, toi, Sylvain, quand tu vis des choses, même seul, loin de tous, de tous ces humains que tu portes dans ton cœur et dans ton cerveau, tu te lis à eux de cette façon?
Oui, je me lis à eux beaucoup par l'exercice de la pensée. Je me lis à eux par l'exercice, encore une fois, de l'écriture. Et je me méfie beaucoup de la nécessité de... Je crois que la nécessité de la communication permanente rend malheureux. Et là, j'en viens à d'ailleurs quelque chose qui nous a percuté depuis maintenant 5 décennies, qui on est obligé d'en parler, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'on aborde un concept qui concerne l'homme, il faut parler de la grande révolution digitale qui nous a tous connectés les uns aux autres et qui est devenue plus qu'une innovation. Nous ne sommes pas là dans le long progrès des techniques humaines. Nous sommes dans un dispositif de transformation absolue du rapport de l'homme à la fois à lui-même, aux autres, à la terre, au temps et à l'espace. Et je crois que on ne peut pas faire l'économie de se pencher un tout petit peu quand on parle du bonheur et du malheur, de la joie, du plaisir et de la satisfaction. On ne peut pas faire l'économie de ce qui nous est arrivé il y a 50 ans, c'est-à-dire cette transformation absolue de notre condition d'homme. Or, l'objurgation d'être en communication les uns avec les autres a fini par remplacer le lien. Et on a cru qu'en étant sans cesse capable de se parler, de s'échanger nos pensées et de communiquer ce qui nous traversait la tête, ou simplement de rendre compte de l'endroit où nous étions et de l'état dans lequel nous nous trouvions, nous allions créer une immense harmonie précisément de la relation humaine. Eh bien moi je n'y crois pas parce que je suis un fervent partisan du silence et de l'absence. Je crois que le silence et l'absence ont exactement sur les hommes, entre eux, l'effet de la germination silencieuse, absente et invisible de la graine dans le limon. Pour que quelque chose naisse, il faut que quelque chose attende, soit long, silencieux, rétracté, et peut-être alors quelque chose arrivera. Voilà pourquoi quand il me pose cette question, oui, bien sûr, je crois profondément au bonheur quand je réfléchis à son articulation avec l'échange humain, qu'il soit un échange physique, tactile ou purement verbal, mais je crois beaucoup à la proportion entre la rareté des échanges et leur valeur.
Tu n'envoies pas des selfies de toi ayant grimpé la face nord.
Non, mais si tu veux, c'est pas vraiment l'objet de notre conversation ce soir que de faire le procès de ce qui est arrivé à l'humanité, c'est-à-dire la révolution digitale. Mais moi, je crois profondément, et quand je dis ça, ce n'est pas une posture, je crois profondément que c'est la pire nouvelle qui soit arrivée à l'histoire de l'humanité depuis, mettons, les années 80, quand l'Internet est sorti de la sphère militaire, et des années 2000, quand le microprocesseur a affligé chacun d'entre nous. Est-ce que nous tenons dans une espèce d'extase, parce qu'il est vrai que cette technologie est absolument incroyable, et pour moi, un renversement absolu de tout ce qui faisait le charme, le sel et l'essentiel de la vie. Et je crois que l'humanité n'a ni gagné en mystère, ni gagné en charme, ni gagné en intelligence, ni gagné en apaisement, ni finalement gagné en rien. Alors évidemment, elle a gagné en des tas de commodités de l'organisation logistique de la vie. Of course, je ne suis pas suffisamment stupide pour ne pas voir que effectivement la vie est rendue beaucoup plus facile, et puis il y a des tas de services qu'on nous rend. Mais on aurait grand tort de croire que cette révolution numérique et digitale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cybernétique, est une extraordinaire innovation que l'on peut user en faisant l'inventaire. Ce n'est pas une innovation, c'est un dispositif de renversement absolu de l'anthropologie, si on peut dire les choses comme ça. Et moi, je crois que ça a contribué à nous rendre malheureux, puisque ça nous a fait croire deux choses. Ça nous a fait croire, premièrement, que tout se valait, et que parce que quelque chose pouvait passer dans le grand tube du haut débit, tout ça est du vocabulaire dégoûtier. Nous sommes là dans l'égout, c'est de la tuyauterie, c'est de la plomberie, tout ça. On a pensé que tout ce qui pouvait circuler par le tube, il faut quand même penser qu'il y a un site internet qui s'appelle « Vous êtes un rectum », quoi, YouTube. Ben, toute cette matière expérientielle, toute cette immense matière expérientielle n'était plus distinguée par le principe qui a créé la civilisation, et qui est le principe de distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Non, du moment que ça peut passer et que ça peut capter, on l'envoie dans le tube. Tout ça nous rend un peu malheureux, je crois. Et la deuxième chose qui, à mon avis, est également le frémissement du désarroi que toi rencontres sous la forme des patients qui viennent parfois demander quelques secours aux praticiens que tu es, c'est l'arrachement par l'hypnose du virtuel. Et peut-être que nous parlerons de ça tout à l'heure, l'arrachement à ce qui produisait l'extraordinaire bonheur de cet miracle de la vie sur Terre, et qui était la captation par l'exercice de nos sens de tout ce qui existait dans le jardin de la Terre et de la vie.
Tu sais, en fait, tu disais que c'était peut-être à côté, c'est exactement dans le sujet. En préparant notre topo, j'avais petit déroulé qu'on respecte pas du tout, ça n'a aucune importance, les obstacles au bonheur. Et dans ces obstacles au bonheur, je commence par écrire le matérialisme. Évidemment, voilà. Penser que je peux acheter des expériences qui me rendront des objets, des séjours, etc. Les comparaisons, me comparer aux autres, comparer à des bonheurs qui me semblent idéaux. La dispersion attentionnelle, on a des études fascinantes qu'on a fait à partir de la méditation où on montre que plus mon attention est dispersée, moins je suis apte à être heureux. L'habituation hédonique, c'est-à-dire le fait de perdre la capacité à me réjouir de choses simples qui sont présentes tous les jours. Tous ces phénomènes qui sont des obstacles au bonheur sont aggravés effectivement par le monde digital et par les écrans. Les écrans et les réseaux sociaux qui poussent au matérialisme, aux comparaisons, à la dispersion attentionnelle. Donc nous, on prend ça au sérieux et on a des études expérimentales qui montrent qu'il y a une corrélation assez étroite chez les enfants et les adolescents notamment, mais ça marche de la même façon chez les adultes, entre le temps de consommation des écrans et notamment des réseaux sociaux et la détresse émotionnelle. C'est-à-dire, en gros, les bonhommes qui travaillent là-dessus disent à partir d'une heure et demie par jour, eh bien, vous augmentez vos scores d'anxiété, de dépression et votre sentiment de solitude. Toutes choses qui sont plutôt des obstacles au bonheur que des facilitateurs.
J'ai envie d'ajouter deux obstacles, parce que dans les obstacles que tu n'as pas cités, le premier, je dirais, l'injonction au bonheur. L'injonction au bonheur nous rend malheureux. Être obligé d'être heureux, il n'y a rien de pire. Ou faire tout pour être heureux et on n'y arrivera jamais. Et donc, il faut avoir une quête modeste du bonheur. Pas après pas. Faut pas vouloir un bonheur absolu tout de suite. Demain, ça n'arrivera jamais, on est sûr d'être malheureux. Il y a un historien de la psychiatrie, Alain Ehrenberg, qui a écrit ce livre merveilleux, La fatigue d'être soi. J'adore déjà le titre. La fatigue d'être soi. Et il montre que ce qu'était la... Je parle sur ton autorité. Il montre que ce qui rendait la maladie psychologique du temps de Freud, c'était la névrose, c'est-à-dire essentiellement le conflit entre nos pulsions, le ça, et puis le surmoi, les interdits, etc. C'est ce qui crée la névrose. Il dit aujourd'hui, c'est plus ça du tout. De toute façon, il n'y a plus d'interdit, il n'y a quasiment plus rien, il n'y a plus de normes, si ce n'est la norme du bonheur, peut-être. Et du coup, en fait, ce qui nous rend aujourd'hui le plus malheureux, ce qui est la maladie psychique la plus développée, c'est la dépression. Et la dépression vient de l'impossibilité de s'accomplir. Parce que l'injonction du monde moderne, c'est d'être soi, c'est d'être heureux, c'est de s'accomplir. Eh bien, ça nous épuise. Et que plein de gens qui n'y arrivent pas, qui disent que c'est trop exigeant, c'est très difficile, souffrent de ne pas répondre à cette injonction. Donc ça me paraît quand même un piège. Il faut être très lucide là-dessus. Et puis la deuxième chose, je crois que ce qui nous rend très malheureux, et surtout en France, c'est la plainte. On est le pays où on se plaint le plus. Je n'ai pas fait d'études statistiques, mais je le constate en voyageant. Vous allez dans plein d'endroits où les gens ont des conditions de vie très difficiles, ils ne se plaignent absolument pas. Vous revenez en France après avoir été dans des léproseries, dans des bidonvilles, etc., vous arrivez, tout le monde se plaint.
C'est là, quel est l'écrivain ?
Mais attends, je vais te dire avec le titre.
Tu le sais.
Ah, mais il y a une phrase que je répète tout le temps, vous savez, on a des phrases comme ça. Donc il y a des phrases de Victor Hugo, et puis il y a une phrase de Sylvain Tesson que je dis très souvent et je voudrais vérifier en sa présence si c'est vraiment lui qui l'a dit. En tout cas, je lui attribue. Cette phrase est merveilleuse. Elle dit « La France est un paradis où les gens qui y vivent pensent vivre en enfer. » Je trouve que c'est tellement juste. Alors, c'est toi qui as dit ça.
Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Bérésina que ne m'a-t-elle pas coûté cette phrase, parce que immédiatement cette phrase a été effectivement, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas responsable de cette phrase en fait, et alors elle a eu un petit feu, elle a fait florès, et alors étonnamment elle m'a été beaucoup reprochée, parce que évidemment quand tu dis la chose que tu es en train de dire, que moi je partage absolument, qui est finalement une manière de relativiser nos propres souffrances, eh bien, immédiatement, on m'a taxé de faire le jeu, naturellement, des grands bourgeois dans leur tour d'ivoire, qui n'ont aucune considération pour la misère de leurs semblables et de leurs voisins, comme comme si moi je n'accomplissais pas ma part de charité, comme si je n'avais pas moi eu mes propres souffrances, comme si je n'étais pas entouré de gens qui avaient les leurs et auxquels parfois j'essayais de me porter pour les adoucir. Donc tout ça était un jeu de dialectique, de tension brutale, et on m'a beaucoup reproché cette phrase. Mais enfin, pour une fois, je suis toujours d'accord avec moi-même.
je contribue, tu vois, à diffuser de plus en plus cette phrase qui te fait de plus en plus d'ennemis, donc j'en suis navré. En tout cas, il y a quelque chose de qui me paraît très très juste. Alors la formule est percutante, mais la réalité est triste. C'est qu'effectivement, alors il y a l'autre extrême, hein, parce que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez des amis qui ont l'air complètement épuisés, qui n'en peuvent plus, vous dites comment ça va, oh great, enfin tout va bien, amazing. Bon, donc ils en rajoutent trop dans le positif. Nous, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que comment ça va, oh là, ça peut aller, il ne faut pas avoir l'air d'aller bien, enfin, c'est mal vu. Donc au fond, on se plaint toujours. Il y a quelque chose qui est culturel, qui est très profond. Et je crois qu'au-delà de la France, de toute façon, il y a quelque chose qui nous parasite énormément. Et tu l'as parlé avec les réseaux sociaux, mais c'est les médias en général. C'est-à-dire qu'au fond, les médias nous mettent sous les yeux le spectacle médiatisé de tout ce qui va mal dans le monde. Or, le monde ne va pas aussi mal que ce qu'on le voit constamment dans les médias. Il y a plein de choses qui vont mal. Alors, attention, la catastrophe écologique, les dictatures qui reviennent, la situation de la femme dans plein... Il y a plein de choses qui vont mal. Mais il y a plein de choses qui vont mieux, il y a plein de choses qui vont bien. Mais ça, on n'est pas là pour vous dire aux informations. Et donc, il est évident que le fait d'écouter en moyenne, entre la radio, la télé, les réseaux sociaux, 2 à 3 heures par jour de mauvaises informations, d'informations négatives, qui vous disent des choses vraies, mais qui ne les mettent pas du tout en relativité par rapport à tout le reste, ben ça nous a, c'est totalement mortifère. On est totalement anxiogène, c'est très anxiogène. Et donc, du coup, moi, j'ai pris une décision, il y a longtemps déjà, hein, c'est de ne pas m'informer plus de 20 minutes par jour. Et tout le temps que j'aurais pu consacrer à écouter en boucle les mêmes informations, parce que c'est toujours la même chose, les mêmes informations, je décide de faire des choses positives. C'est-à-dire je passe plus de temps dans mon potager, plus de temps avec mes chats, plus de temps avec les gens que j'aime, plus de temps à écouter de la musique, plus de temps à faire des expériences positives qui nourrissent quelque chose de positif. Parce que si je passais 3 heures par jour à regarder toutes les informations terribles du monde, mais je serais totalement déprimé. Et donc, effectivement, et j'ai dit ça un jour en direct à BFM TV, ils m'ont plus jamais réinvité. Et donc, je pense qu'on est responsable aussi de notre bonheur et de notre malheur en fonction des activités qu'on fait. Et que nous sommes responsables de certains choix, de cultiver des choses plutôt positives qui nous font du bien et de cultiver des choses anxiogènes et négatives. Mais je pense qu'on le fait aussi, et ça, tu me diras ce que tu en penses, parce que notre cerveau humain, quelque part, est programmé pour ça. Pour aller chercher le négatif, le danger, ce qui nourrit la peur, etc. Et que donc il faut arriver à sortir de cette programmation biologique qui était celle de l'homme préhistorique qui avait tout le temps peur d'être agressé partout, qui devait savoir tous les dangers qui le menaçaient, donc s'informer au maximum. On n'a plus besoin de s'informer au maximum. On sait en peu de temps, en peu de choses, grâce justement à l'information qui circule partout, ce qui s'est passé d'essentiel. Et puis pour le reste, cultivons notre jardin, essayons de faire des choses utiles, des choses bonnes, mais plutôt que de se laisser envahir par ce qu'on appelle le malheur du monde. Et petite parenthèse, il y a des sondages qui sont faits régulièrement dans une cinquantaine de pays du monde qui reflètent toute la diversité géopolitique du monde, qui montrent que 85% des humains se disent heureux ou très heureux, et y compris dans des pays très pauvres. C'est d'ailleurs dans les pays les plus riches, et surtout en France, qu'on est le plus malheureux. Donc finalement, on voit que on a une vision faussée de la réalité. Donc on me dit, comment peut-on être heureux dans un monde malheureux? Je commence par dire, un, le monde n'est pas aussi malheureux qu'on le dit, puisque 85% des gens se disent heureux ou malheureux, ou très heureux. Et puis, deuxièmement, eh bien, je pense que ce qui permet aussi de tenir et d'avoir, de dormir, j'ai envie de dire, malgré toutes les souffrances du monde, les difficultés, les guerres, les atrocités qu'on voit, qui existent, il ne faut pas les nier, bien sûr que ça existe, c'est aussi de faire quelque chose, de s'engager. Parce que si on est passif, et qu'en plus on regarde 3 heures par jour toutes les malheurs du monde, mais c'est insupportable. Et donc, moi, je coupe ma télé et je m'engage. Et donc, le temps que j'aurais consacré aussi à écouter et à subir le malheur du monde, je préfère, à mon tout petit niveau, essayer de le faire reculer en essayant de faire quelques actions utiles, d'écrire des livres qui peuvent peut-être aider des gens, de m'engager dans des associations, d'en soutenir d'autres. On fait tout ça. Et donc, voilà, on est tous engagés dans des actions qui essayent de faire reculer le malheur du monde. C'est une toute petite goutte d'eau, c'est rien. Mais je dirais que ça peut nous aider aussi à mieux supporter le tragique, à mieux supporter le malheur, parce qu'on essaye de faire notre petite part. C'est cette phrase de Pierre Rabhi qui est merveilleuse, c'est le colibri qui essaye de faire sa petite part. C'est rien la goutte d'eau qu'il va mettre pour essayer d'éteindre l'incendie. C'est pas ça qui va suffire. Mais si tout le monde s'y met, ça fera quelque chose. Et puis lui-même, il fait sa part. Et donc je crois que de s'engager, de ne pas être passif, de ne pas subir, c'est une manière, effectivement, de pouvoir supporter, entre guillemets, le malheur du monde.
Merci Frédéric. Tu as amorcé notre conclusion, donc, puisque on avait évoqué, on avait dit qu'on allait essayer de parler quand même de ce qui est le thème, le titre de cette conférence, le bonheur à l'épreuve du réel. Tu as rappelé l'importance de l'action, et c'est vrai que le colibri qui apporte sa goutte d'eau ne fait peut-être pas grand-chose, mais on ne sait jamais s'il y a beaucoup de colibris. C'est anxiolytique. L'action déjà nous libère de l'anxiété, comme l'anxiété nous paralyse et nous fait souffrir inutilement, il ne transforme pas le monde, ça a déjà une fonction formidable. En réfléchissant à ce que j'allais dire par rapport à cette histoire du bonheur à l'épreuve du réel, j'ai pensé au pire moment de ma vie de psychiatre, le patient qui m'avait le plus bouleversé, c'était un monsieur hospitalisé dans le service, un patient algérien qui était réfugié, c'était en Algérie, pendant un moment, il y a eu une guerre civile épouvantable, des dizaines de milliers de morts, conflits entre les islamistes et le gouvernement algérien. Son fils avait été égorgé sous ses yeux par des islamistes, et donc il était dans le service en dépression terrible. Et je me souviens parfaitement de la consultation, c'est un événement pas traumatique, mais bouleversant, et donc ma mémoire a capté le temps qu'il faisait ce jour-là, le bureau que j'occupais à cet instant, comment ce monsieur était habillé, qu'est-ce qu'il y avait sur mon bureau, comme un flash instantané. Et je me souviens quand le... Je fais ce que j'ai pu, je me souviens après, mais quand le monsieur est sorti, je me suis dit, ben voilà, c'est un peu l'histoire du bonheur à l'épreuve du réel. C'est l'histoire de bonheur auquel tu t'intéresses, à ta psychologie positive, t'es bien mignon, mais c'est vraiment illusoire. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le type, il a vu son fils se faire égorger sous ses yeux, et toi, tu fais des ateliers de psychologie positive à tes patients. Et puis, ça me contrariait quand même de voir tout mon système que j'avais construit sur l'importance d'aider les gens à être plus heureux. Et au fond, je me dis, non, quelques jours après, cette histoire atroce ne prouve pas que le bonheur est quelque chose d'illusoire, mais ça prouve juste que le malheur peut frapper à tout instant dans une vie humaine. Il peut frapper quand il veut. Et donc, le bonheur est quelque chose qui existe, qui est capital et qui est immensément fragile. Et le malheur s'installe quand il veut. Et donc, finalement, est-ce que notre équation du bonheur, ça ne serait pas, on n'est jamais heureux que malgré le fait qu'on va mourir, malgré le fait qu'on souffre, malgré le fait que les gens qu'on aime souffrent, malgré le fait qu'il y ait des injustices, des horreurs, des guerres autour de nous. Frédéric a raison, il ne faut pas regarder que cela, mais certains jours, on les voit quand même, ces horreurs. Et donc, il y a quelque chose, moi, qui m'interroge beaucoup, c'est comment on peut se permettre alors d'être heureux quand il y a autant de malheur autour de nous. C'est un peu la question qui s'est posée à un moment donné dans l'histoire du christianisme, avec ce qu'on appelait les théodicées. Une théodicée, c'est la justification de l'existence de Dieu malgré les injustices, malgré les horreurs, malgré la guerre. Voilà, on en parlait à table tout à l'heure, Auschwitz. Voilà. Est-ce que Dieu existe quand on voit ce qui s'est passé à Auschwitz? Et donc, les théoriciens de la religion essaient d'expliquer que Dieu peut exister et laisser les humains accomplir des horreurs épouvantables. Eh bien, je crois qu'il y a une réflexion aussi à mener par rapport au bonheur. Comment je peux me permettre d'être heureux alors que autour de moi, et pas forcément dans des pays lointains, il y a de la violence, de l'injustice. Quand on est médecin, la mort, la maladie, quand j'étais interne, j'ai fait un stage en cancérologie pédiatrique, voilà, on voit des gamins qui vont mourir toute la journée, et on rentre chez soi le soir, et c'est compliqué de se donner le droit d'être heureux, de se permettre d'être heureux. Et pourtant, il y a plein de raisons malgré tout de se permettre de l'être et de faire l'effort de l'être. La première de ces raisons, c'est que de toute façon, s'empêcher d'être heureux et se bloquer, se resituer dans le malheur, n'arrange pas le malheur du monde, n'améliore pas le malheur du monde, d'aucune façon. La deuxième raison, c'est que le plus souvent, le bonheur nous pousse à l'action. Et c'est là où tu étais vraiment dans le vrai, Frédéric, hein, sur le fait que face à l'incendie, faire quelque chose, je pourrais le faire si je ne suis pas profondément désespéré, déprimé, découragé, pessimiste. Parce qu'à ce moment-là, je ne ferai rien. Donc, considérer que le bonheur est une source d'énergie qui me donne la capacité d'agir. Et ça, on le retrouve dans tout un tas d'études expérimentales. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que je voulais dire par rapport à cette question du bonheur à l'épreuve du réel. Et c'est, une fois de plus, quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire, le bonheur, ce n'est pas un petit sujet de poule, bonbon rose, détendu. C'est hyper important et sans lui, on est incapable d'affronter la réalité et la face sombre de la réalité du monde. Je te laisse le mot de la fin dans cette... Et après, on aura un autre mot de la fin, l'avant-dernier mot de la fin.
Oui, sur le réel, je trouve que ce que vous venez de dire l'un et l'autre est tout à fait crucial, c'est-à-dire que le réel, c'est ce qui nous montre que les choses ont des limites, que tout n'est pas toujours possible. Je crois que l'un des grands pourvoyeurs de malheur, c'est précisément les grandes idées abstraites et les grandes ambitions inaccessibles. Parce que étant inaccessibles, elles ne créeront que la frustration. Et le contraire du malheur, du bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est le ressentiment. C'est-à-dire le sentiment qu'on en est privé de manière injuste. Et ça crée cette espèce de macération, de clapot très toxique, qui crée d'ailleurs, d'une certaine manière, le malheur des sociétés, y compris des plus avancées, des plus pourvues, des plus prospères. Le ressentiment. Alors le réel est une école superbe, puisqu'il nous montre que non, on ne peut pas vivre 1000 ans. Non, on ne peut pas... je ne sais pas quoi, moi, aimer toutes les heures. Non, on ne peut pas tout posséder. Enfin, voilà, il y a des bornes, il y a des limites. Et on en revient à l'idée que l'exercice du bonheur passe par une tentative de fragmentation de ses ambitions et de limitation de ses désirs et de modestie de ses besoins. Ça semble évidemment une porte ouverte de dire ça, mais un grec en avait fait une théorie politique assez géniale, c'était Xénophon dans son Économique, où il expliquait à l'empereur que s'il voulait bien conduire son empire, il devait d'abord savoir gouverner une ferme. Et que dans l'espace tout à fait clos de son champ et dans l'effectif tout à fait comptabilisable de ses animaux, il aurait là une capacité de s'exercer à la conduite de l'empire. Et bien il en va exactement de même du bonheur. Quand le but est trop lointain, on ne l'atteindra jamais, et l'intervalle qu'il y a entre son désir et l'inaccessibilité de son vœu s'appelle précisément le malheur. Les alpinistes le savent bien, qu'ils ne regardent pas le sommet quand ils essayent de l'atteindre, mais qu'ils d'abord se fixent sur le premier bloc, puis le deuxième, puis le petit vallon, puis l'épaulement, puis le gendarme, et puis à un moment, tout à coup, ils arrivent au sommet. Alors ça, c'est ce que je voulais dire sur la nécessité du réel. Et cette idée que le réel nous impose des limites et qu'on ne peut pas se payer de grands mots et de grandes ambitions et de grands discours et de grandes promesses ramène peut-être à une possibilité de tendre vers le bonheur par l'exercice du courage et de l'engagement intérieur. Parce que la récompense qui arrivera... au terme de du difficile effort de faire quelque chose qui va contre son intérêt, contre sa facilité, contre sa paresse, contre sa médiocrité naturelle et personnelle, eh bien la récompense de cet engagement-là, à mon avis, procurera le bonheur. Et certes, le bonheur est nécessaire et à l'action. Mais l'action pourra peut-être, par une espèce d'effet retour, provoquer le bonheur. L'engagement, il peut être physique, évidemment. C'est le pompier qui va dans les flammes. Certes, c'est le plus médiatique, c'est le plus spectaculaire, c'est le plus héroïque, c'est celui qui frappe d'image, d'épinal, le long cours de l'histoire à des fins d'édification des jeunes générations. Certes, le courage physique, il est parfait, il est facile, on le connaît, parfois il n'est qu'un réflexe d'ailleurs, il est tout à fait médiatisable. Dans une société du spectacle, c'est celui qu'on préfère, mais ça n'est pas le plus intéressant. Il y a l'engagement intérieur. L'engagement intérieur est plus intéressant. Un homme, ça s'empêche. Comme disait le professeur d'Albert Camus, voilà la plus grande difficulté de notre intervalle de vie sur la Terre, c'est de s'empêcher d'aller contre la facilité de ses pulsions. Voilà un bel engagement. Et il y a un troisième engagement qui, moi, est mon préféré, qui est l'engagement moral et intellectuel et politique, d'une certaine manière, qui crée un véritable bonheur parce que, encore une fois, instruit par l'idée que le réel nous impose des limites, eh bien, grâce à cet engagement moral et politique, politique au sens de la conduite des hommes, pas de la politique politicienne pour savoir si le député lambda s'accrochera à son fauteuil. Non, je parle de la conduite des sociétés. Eh bien, l'engagement moral et politique ne parvient à ses fins que s'il exprime un anticonformisme. Et voilà la grande difficulté de cette vie. C'est d'inventer, c'est d'imaginer, et c'est de ne pas toujours séduire ceux qui sont autour de nous. C'est de ne pas se payer de grands mots. C'est de parfois accepter que le réel nous ramène à sa réalité. Et à ce moment-là, parfois, on prend des décisions qui ne sont pas à la mode, qui ne ressemblent pas à l'esprit du temps. On tient des discours qui ne sont pas sympathiques, qui ne sont pas agréables, qui sont urticants, qui créent un léger eczéma épidermique dans l'atmosphère très agréable dans laquelle on est en train de vivre. Ça, ça s'appelle l'anticonformisme. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je me suis toujours passionné. J'ai toujours remarqué qu'ils étaient peut-être plus heureux que les autres, des artistes qui, de temps en temps, prenaient la tangente, choisissaient les voies d'échappée, les issues de secours, les contre-escarpes, ce qui n'était pas absolument évident, et qui, par cet engagement anticonformiste, réussissaient à atteindre le bonheur. Et je conclue en racontant une anecdote qui va illustrer tout ce que je viens de dire. J'ai moi une grande admiration pour un artiste superbe qui s'appelle Philippe Petit, que certains d'entre vous connaissent parce que c'était un grand funambule dont on se souvient de l'image de son câble tendu entre les deux tours du World Trade Center à New York en 1973. Il avait installé son câble de manière clandestine. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'en 1970, il avait fait une répétition entre les deux tours de Notre-Dame. Vous allez voir pourquoi je vous explique ça lors d'une conversation sur le bonheur. Il a mis le câble entre les deux tours de Notre-Dame, clandestinement. Et à 7h du matin, au mois de juillet, il s'est avancé sur son câble, sans filet naturellement, avec simplement un balancier de funambule, et il a dansé comme un fil de ciriste pendant 1h30, comme Rimbaud qui disait « Je tends mes cordes de clocher à clocher et je danse ». Il a dansé dans le ciel de Paris pendant 1h30. Et les passants se sont attroupés sur le parvis, ébahis. Il regardait l'ange à 60 mètres de haut, sans aucune sécurité, en train de faire des demi-tours et de se coucher sur son câble. Et une dame est arrivée, et elle a eu ce mot génial. Elle a dit « Ça doit être un déséquilibré. » Eh bien, je crois que le déséquilibre anticonformiste, c'est ce qu'il faut chercher pour être heureux.
Allez,
on fera des applaudissements.
Tu fais un petit mot de conclusion pour toi, Frédéric, parce que leur tour,
ouais, je vais raconter une petite histoire, aussi très courte. Je parlais tout à l'heure du stoïcisme et qui nous dit que le bonheur et le malheur sont dans le regard que nous portons sur les choses. C'est très bien illustré par un petit conte soufi. Qui montre bien qu'il y a cette universalité, encore une fois, de la pensée. Et dans ce conte, on nous raconte qu'il y a un étranger qui arrive dans une ville, et puis il voit un vieillard assis à côté de la porte, et donc il se dit c'est un homme d'expérience et sans doute un sage, et il lui pose la question, « Dis-moi, vieil homme, comment sont les gens dans cette ville? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants ?» Et le vieillard sourit, le regarde et lui retourne la question.
comme font toujours les sages, hein, ils ne répondent jamais. Et donc, c'est pour ça que tout le monde n'est pas sage, hein, parce qu'on répond aux questions. Et donc, en fait, l'étranger lui dit, bah, très désagréable, très méchant, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui dit, bah, ici, c'est pareil. Alors, le type est désespéré, il dit, mais j'ai pas de chance, partout où je vais, les gens sont méchants. Une heure après, arrive un deuxième étranger qui pose la même question. Le sage lui retourne la question et l'étranger dit, ah, mais les gens étaient charmants, très agréables, très sympathiques. Et le sage lui dit, bah, ici, c'est pareil. Alors, il y a un vendeur de chameaux qui entend la conversation, il va voir le sage et lui dit, mais t'es un menteur. On te pose la même question, il y a un étranger, tu dis qu'ici, dans cette ville, tous les gens sont méchants, et tu dis à l'autre que tous les gens sont gentils. Il faut savoir. Et le sage lui répond, ça n'a aucune importance, parce que chacun porte le monde dans son regard. Un homme qui sera heureux quelque part sera heureux partout, un homme malheureux quelque part sera malheureux partout.
Merci Frédéric. Merci Sylvain. Merci beaucoup à vous toutes et pardon.
Merci Christophe.
Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Alors je propose qu'on rallume les lumières pour qu'on puisse vous voir un petit peu mieux et qu'on échange autour de vos questions. Donc normalement, les lumières vont s'allumer et comme. Ils sont toujours assez limités à ce qu'on fait.
Ah, mais il y a du monde, dis donc.
Et vous allez voir des personnes avec des micros. Dans ce cas, vous levez la main. Je pense que c'est comme ça que ça va s'organiser. On vous apportera un micro. Voilà, voilà, par exemple, un micro ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Vous pouvez faire aussi des petits témoignages ou raconter une petite histoire, mais voilà, pas en laissant la place aux autres personnes qui voudraient éventuellement questionner ou témoigner.
Chers amis, cher Frédéric, et Dieu dans tout ça.
C'est un autre sujet, hein. Non, non, sincèrement, j'ai pas envie de répondre à cette question. Parce que là, on parle du bonheur, Dieu, c'est un tout autre sujet qui peut être connecté à la question du bonheur, ou pas. Je dirais juste une toute petite chose sociologique qui n'engage absolument pas un point de vue philosophique. Les études qui ont été faites sur cette question, qui ont montré que, assez globalement, les gens croyants étaient majoritairement plus heureux que les incroyants. C'est-à-dire que la foi aide, la foi donne du sens, la foi aide à supporter les épreuves de l'existence. Et donc, on s'est rendu compte, par des études sociologiques, que c'était un élément important du bonheur.
Je peux compléter, finalement, on dit qu'on ne va pas répondre, on répond. Par rapport à ce que dit Frédéric, effectivement, alors vous savez, nous, on va creuser, puisque quand même, les médecins, même les psychiatres, sont tout de même des scientifiques, et on s'est demandé, mais c'est vrai que statistiquement, les gens qui ont la foi, qui pratiquent une religion, en moyenne, pas tous, sont un peu plus heureux, c'est pas spectaculaire, que les autres. Alors on s'est aperçu que finalement, ce qui leur faisait du bien, c'était quoi? C'était d'une part la prière, le fait de prier, et il est très probable que ça marche de la même manière pour la méditation ou les prières païennes, laïques, le fait de prier, quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien déjà physiquement, corporellement, et qui fait qu'on lâche prise un petit peu, on s'en remet à une puissance supérieure, supposée bienveillante. Ce qui fait du bien dans la religion aussi, c'est le lien social. La plupart des gens qui pratiquent une religion sont en lien avec d'autres, et le lien social est un facilitateur de bien-être et parfois de bonheur. C'est aussi la foi en tant que telle, la croyance qu'il y aura une vie après la mort, que l'adversité qui m'arrive n'est pas une adversité qui frappe à l'aveugle, mais que c'est des messages que je ne comprends peut-être pas. Alors voilà, tout ça explique sans doute ce phénomène. Et d'autres chercheurs ont montré qu'en réalité, les bénéfices de la foi, les liens de la foi et du bonheur, obéissent à une règle qui la fait ressembler à une courbe de Gauss. C'est-à-dire l'excès de foi, le fanatisme, et l'absence de foi, athéisme ou agnosticisme, semble procurer moins de bonheur qu'une foi éclairée et mesurée. Alors là encore, tout ça est sujet à discussion, mais il y a quand même un petit lien par rapport à ce que vous venez de dire.
Et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence, de savoir si, étant donné les œuvres de sa créature, Dieu est encore heureux.
Très bonne idée.
Puis je voudrais rajouter une petite anecdote par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'information, trop d'informations peut être absolument anxiogène. Je me souviens d'un ancien ministre de l'Intérieur qui, vous savez que le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. Et donc, il avait un grand désir, c'était de rencontrer les Chartreux. Les Chartreux sont ces moines qui vivent retirés dans le massif magnifique de la Grande Chartreuse. Et finalement, ils sont coupés de tout. Et il a été voir et il discute, il est reçu en tant que ministre des cultes et il discute avec le père abbé et lui dit « Mais est-ce que vous vous tenez au courant de l'actualité ?» Et le père abbé répond « Oui, c'est très important, j'écoute tous les jours la radio. » « Ah bon ?» Et il lui dit « Quand il y a une nouvelle importante, j'en fais part le dimanche à la communauté pour qu'ils puissent prier. Bon. » Et il lui dit « Ça fait combien de temps, combien de jours vous n'avez pas donné de nouvelle importante ?» 23 ans. Donc c'est la relativité de ceci.
C'est ce qui est important. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Faites-nous signe, voilà, qu'on tourne le regard vers vous.
Oui, quand je suis venu à cette conférence, j'avais dans la tête la chanson de Leclerc, c'est un petit bonheur, que j'avais ramassé tout en pleurs.
Est-ce que vous pouvez tenir le micro très près de votre menton et de votre
bouche? Oui, comme ça, c'est mieux. Bon, j'ai un peu de difficulté à parler parce que ça fait 12 ans que je vis avec un squatteur qui s'appelle Parkinson et qui me poursuit chaque fois que je cherche le bonheur. Mais le bonheur d'être avec vous ce soir, c'est parti de chez Leclerc avec le petit bonheur et tout ce que je demande. J'ai, au terme de cette conférence, l'impression qu'en fait, il y a plein de bonheur. Ça ne serait pas une conférence sur le bonheur, mais sur les bonheurs. Parce que, finalement, vous nous avez chacun révélé la part de bonheur que vous créez, que vous imaginez, que vous cherchez. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'une villa en Floride et d'un appartement à Washington, si vous voyez ce que je veux dire, pour être heureux. Et puis, il y a des gens qui sont pleins de bonheur pour des petites choses. Lévinas parle de petites bontés, je crois, qui a donné une part de son pain à un prisonnier à côté. C'est un geste énorme et c'est une forme de bonheur. Donc voilà, ce soir je suis à la fois content de vous avoir entendu, mais chargé de plein de choses à réfléchir, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de bonheurs différents. Merci.
Merci à vous, merci beaucoup. J'ai une question.
Oui. Donc, c'est bon, ça fonctionne.
Oui.
Donc, ce que j'ai retenu ce soir, c'est que si les gens m'applaudissent après mon intervention, ça ne sera pas du bonheur, mais un plaisir ponctuel. Et une autre question par rapport à l'intelligence artificielle et la relation entre l'intelligence artificielle et le bonheur. On a parlé des réseaux, des choses comme ça, mais l'intelligence artificielle, je pense que ça aura une influence sur la manière de vivre, de réfléchir à l'avenir. Merci.
Oula, les gars, quelqu'un veut réfléchir et répondre. Alors. Oui, on est un peu perplexe. On peut chercher à comprendre votre question de mille et une façons. C'est-à-dire, est-ce que l'intelligence artificielle va être un outil qui va nous aider à nous rapprocher du bonheur, à mieux comprendre certaines choses, à mieux le mettre en équation et à nous en rapprocher? Ou au contraire, est-ce qu'elle va, comme ont pu le faire les écrans, les réseaux sociaux, Internet, être une menace ou un risque pour ce bonheur? Alors, moi, je ne peux pas vous répondre sur ça, mais je viens de faire une expérience très intéressante avec l'intelligence artificielle. Je suis en train d'écrire un livre avec deux autres auteurs, et donc, on enregistre régulièrement nos échanges. Ça se passe sous forme d'échanges, pendant une journée ou plusieurs jours, on met le micro, on prépare un peu, on discute, et donc tout est enregistré. Il y a un petit logiciel, alors c'est pas encore de l'intelligence artificielle, qui retranscrit tout en propos, en paroles, donc ça marche plus ou moins bien, mais quand même. Et donc, il nous suffit de relire, d'ordonner, d'agencer, bref. Et un jour, j'ai eu l'idée de me dire, mais au fond, si tu demandais à l'intelligence artificielle de résumer ce que vous avez dit, d'en tirer la substantifique moelle. Au fond, il y avait 20 pages de discussion, c'est vrai que c'était un peu fouillis, un peu compliqué, ça partait dans tous les sens, un peu comme notre discussion de ce soir est partie dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça, voilà, si on demandait à l'intelligence artificielle de résumer en 20 lignes la discussion de ce soir, ben c'était d'une grande platitude. C'était très plat, c'est-à-dire c'était juste, c'était, voilà, ils ont parlé du bonheur, il y a plusieurs façons. Ça n'avait aucun intérêt, le résultat de notre chapitre. Et au fond, ce dont je me suis aperçu à ce moment-là, alors que ce qu'on avait dit avait quand même un peu d'intérêt à mon avis, c'est que l'intelligence artificielle avait tout nivelé. Et quand on lit le chapitre d'un auteur, moi quand je relisais mes notes, nos notes, les notes de notre discussion, mon cerveau extrayait ce qui était poétique, fort, spectaculaire, nouveau. Et ça, l'intelligence artificielle ne l'aime pas du tout. Et donc, au stade où on en est de cet outil, elle ne fait que niveler les choses. Alors, là où on peut peut-être se faire du souci, c'est le jour où on lui dira, et je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse, mais je ne sais pas si les logiciels sont assez puissants, fais-moi ressortir ce qu'il y a d'original dans ce que viennent de dire ces trois personnes toute la soirée. Je ne sais pas si l'IA peut le faire aujourd'hui, mais sans doute qu'elle pourra le faire un jour. Donc, je ne réponds absolument pas à votre question, mais je vous livre une sorte d'instantané de la toute petite expérience que j'ai eue récemment avec l'intelligence artificielle qui m'a beaucoup, beaucoup frappé.
Moi, j'ajouterais juste une petite chose, mais qui est très basique, et très simple et assez évidente, qui est celle de la technologie en général. La technologie n'est pas là, ne fera pas ni le bonheur ni le malheur de l'humanité. Tout dépend de la manière dont on l'utilise. Et donc la technologie est un moyen, et l'intelligence artificielle est un moyen qu'on peut utiliser à bon ou à mauvais escient. C'est un moyen qui peut nous faciliter la vie, qui peut pour un tas d'entreprises simplifier beaucoup de choses, ça peut être utile, mais ça peut aussi produire des choses très négatives. Il y a des métiers qui sont extrêmement importants, qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Il y a des usurpations d'identité qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On ne saura plus demain si on verra une image, un film, si c'est la réalité ou si c'est complètement inventé, créé par l'intelligence artificielle. Donc ça crée plein de nouveaux problèmes de discernement, justement. Donc je dirais que moi, c'est ni fait pour nous rendre plus heureux ni plus malheureux. Tout dépend de l'usage qu'on en fera et il faut en tout cas avoir encore plus d'esprit critique.
Merci beaucoup pour cette question à laquelle on n'a pas su répondre, sauf peut-être Sylvain. Tu as...
Non, moi je ne vais pas répondre davantage, mais je vais. Pardon, parce que moi j'oppose un discours très radical contre cette invention. D'ailleurs, d'une certaine manière, pas plus radical que le vôtre, mais je crois qu'il faut de toute façon opposer un discours radical à cette innovation, puisque elle-même est radicale et propose une mutation radicale. Je crois plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? C'est une matrice de logique et de calcul. Or, le bonheur n'est pas logique et n'est pas comptabilisable. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'intelligence artificielle est une machine qui repose sur ce qu'on lui a d'abord injecté dans l'estomac, si je puis dire. C'est une digestion, certes géniale, d'un supercalculateur qui doit son information de ce qui existait préalablement, qui certes peut apprendre, vous savez ça mieux que moi, qui peut, par des combinaisons tout à fait insoupçonnables, créer des appareillages et des enchaînements logiques dont nous n'aurions pas été capables et qui surtout le crée avec une grande vitesse. Mais elle n'invente rien. Or, le domaine du bonheur, de l'amour et de tous les sentiments dont nous parlons, c'est que nous sommes dans la pure invention. Car on a abordé un peu cette question-là, mais sans insister. Ce qui est merveilleux avec le bonheur, c'est que malgré toutes les définitions que l'on lui donnera, Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tellement de mal à le définir. Malgré toutes les tentatives de peindre ce qu'est la joie ou la satisfaction, eh bien on se rendra compte que deux consciences humaines, devant la même réalité et la même disposition, les mêmes modalités qui devraient lui offrir le bonheur, ne le vivront pas de la même manière. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le sentiment inédit de deux assoiffés de la même soif devant deux verres d'eau de la même contenance. Rien ne sera pareil chez eux. Le sentiment n'est pas modélisable. C'est une immense erreur de le croire. Et c'est même affreux. Et je finis en disant que qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est finalement la rencontre, le contact de notre conscience avec une situation ou avec une réalité. Et tout d'un coup fait émerger ce sentiment irrationnel. Eh bien, la réalité n'est pas l'apanage de l'intelligence artificielle puisqu'elle est artificielle. Or, avec Internet, on ne plante pas un clou. Et donc, on ne fera pas naître un sourire, on ne fera pas couler une larme, et on ne fera pas, à mon avis, battre un cœur. C'est pour ça qu'au fond, dans l'arrière-pensée, dans l'arrière-texte de votre question, il y avait la question de savoir si un jour, on pourrait demander à la machine, à la matrice, de nous créer un bonheur artificiel. Eh bien, je ne le crois pas. Et si elle réussit, eh bien, là, vous parlez d'un malheur.
J'ai encore envie d'ajouter quelque chose dans finalement votre question qui nous a laissé sans voix pendant 10 secondes est très riche. Juste expérience personnelle aussi. Il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour écrire tes livres ? Mais la réponse est très simple. C'est que tout le plaisir que j'ai, c'est l'effort que j'ai à faire pour écrire mes livres. C'est parce que je réfléchis, que je me coltine des questions difficiles, que je progresse, que mon intelligence progresse et que j'ai la joie de trouver quelque chose. Si je posais une question en disant voilà le chapitre de mon livre, voilà la question que je me pose, intelligence artificielle, ChatGPT, réponds-moi, et que le chapitre est fait, j'ai plus aucun plaisir à écrire. Et je n'aurais pas progressé intellectuellement, parce que je dis toujours j'écris mes livres d'abord pour moi. Pour progresser, pour apprendre, pour découvrir, pour penser mieux. Et puis j'ai du plaisir à écrire, à trouver la formule. Donc quand je vois tous ces étudiants qui font faire toute leur dissertation par l'intelligence artificielle, je trouve ça pathétique. Alors évidemment, ça va être pratique quand on a le temps de réviser, mais c'est pas ça qui va nous rendre plus intelligents. Au contraire, on va devenir des idiots sachants. C'est-à-dire qu'on pourra répondre à tout parce qu'on utilisera notre ordinateur, mais sans notre ordinateur, on sera des idiots. Parce qu'on n'aura pas cultivé le muscle de l'intelligence, de la réflexion, des interrogations, des contradictions qu'il faut dépasser. Et donc, il ne faut surtout pas utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer l'effort de réflexion personnelle.
Vous m'entendez ? Alors, je vais commencer. Alors, Scal, je voulais parler du bonheur. Alors, d'une chose qui est super importante, que j'entends souvent, c'est que c'est au bonheur par rapport à la vie de tous les jours, aux conditions de travail, que si jamais, parce qu'on a le droit d'être heureux forcément, que si jamais, je vais dire le mauvais exemple, après le bon exemple, si jamais un rythme de travail, on se lève à 6h du matin, avant d'aller bosser, prendre son déj, tout ça, on part à 7h, on bosse de 8h à 19h, on prend la pause déj, et on rentre chez soi à 20h, on mange, et avec ça, avec ce rythme, eh ben on va faire des burn-out, on va pas être bien, au travail on va être moins productif, tandis que le contraire, là je vais donner un bon exemple, si jamais l'employeur il fait travailler par exemple, de 8h midi, 13h, 8h midi, 14h, 17h, et après il donne l'employeur, après ça dépend c'est quel secteur d'activité dans l'emploi, mais il donne une bonne rémunération d'un côté des salariés, s'il donne des bons horaires l'employeur. Et une bonne rémunération d'un côté, après pour le bonheur, et ce qui fait le bonheur, c'est que les salariés dans l'entreprise ils vont être plus productifs, ils vont augmenter le chiffre d'affaires, ensuite ils vont être plus heureux dans la vie de tous les jours. Et du coup, pour moi, ça c'est la super bonne clé du bonheur, parce que malheureusement, je pense qu'l'année 2025 elle vient de que finir, mais il y a certains employeurs qui respectent pas les lois ou qui font travailler plus d'heures et que si jamais, comme j'ai dit, pour conclure, quand le temps il part, il ne revient pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, je vais donc répondre.
Alors, c'était à la fois une question, un témoignage, des points de vue. J'ai cru comprendre, enfin moi j'ai cru entendre deux, finalement, une question principale, au tout début en tout cas, c'est est-ce qu'il y a des conditions matérielles d'existence qui sont un obstacle significatif à l'accès au bonheur ? Oui, malheureusement, je crois que la réponse est oui. Et je pense que le bonheur, c'est quelque chose à quoi on va pouvoir s'intéresser, qu'on va pouvoir cultiver, à condition que le réel, le quotidien, ne nous ait pas trop écrasé. Tu parlais tout à l'heure, Sylvain, enfin, tu parles de façon très régulière de l'importance du réel, mais parfois, il y a des réels qui sont des réels aliénants, des réels écrasants, des réels épuisants. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est moins celle du bonheur que celle de la survie. Et après, je suis malheureusement d'accord avec vous. Et c'est pour ça, vous savez, Frédéric parlait tout à l'heure de l'injonction à être heureux. Les politiques, notamment au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, les deux grandes révolutions, la Révolution française et la Révolution américaine, les États-Unis d'Amérique, ont légiféré sur le bonheur. Les révolutionnaires se sont posé la question du bonheur. Et dans la première constitution des États-Unis, il y avait des paroles très sages. Il y avait cette remarque, il existe trois droits inaliénables de l'être humain. Le droit à la vie, nul n'a le droit de prendre la vie, enfin, sauf qu'ils quand même la peine de mort, mais pour des raisons exceptionnelles, mais en dehors de ça, ma vie m'est inaliénable, personne ne peut y attenter. La liberté, nul ne peut prétendre restreindre ma liberté, sauf dans des cas prévus par la loi, et non pas le bonheur, mais la poursuite du bonheur. Au fond, la grande intelligence de cette réflexion, c'est de dire, l'État n'a pas à s'occuper du bonheur de ses citoyens, parce que ça, ce sont les dictatures qui font ça, décident qu'on va être heureux de telle façon et pas autrement, mais il a créé des conditions permettant aux citoyens d'être heureux. Et on revient à ce qu'on abordait au tout début, le bonheur comme état émergent, pas décision, mais c'est un état émergent dans un certain nombre de conditions. Les devoirs d'un état, c'est de créer des conditions de libre circulation, de respect des biens et des personnes, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, toutes ces choses-là qui permettront aux gens de s'occuper eux-mêmes de leur bonheur. On ne va pas faire leur bonheur, mais on leur présente les conditions pour y arriver. Et je crois que c'est un peu la même chose en entreprise. Je pense que les entreprises qui s'intéressent de trop près au bonheur de leurs salariés sont sur une fausse route, à mon avis. Il faut s'intéresser aux conditions de travail, faire qu'elles soient les plus respectueuses, des rythmes, des fatigues, des aptitudes, etc. Et de ça, les salariés feront ou non, selon leur prédisposition, leur valeur, leur hiérarchie d'intérêt, une capacité à se rendre ou pas heureux. Voilà ce que j'ai cru comprendre de votre intervention, en tout cas ce qu'elle m'a fait susciter comme réflexion. Sylvain, tu me dis.
Je crois que, monsieur, merci d'avoir finalement mis ce sujet sur la table de nos conversations, qui peut-être nous paraissait d'une certaine manière tellement limpide et évident que nous avons peut-être négligé au début d'introduire notre conversation par ce rappel que, bien entendu, la conversation sur le bonheur peut se tenir quand les problèmes de la faim, du froid, de la douleur sont oubliés. D'ailleurs, nous sommes à un moment permis de dire que parfois le bonheur pouvait être un état de bien-être dont on avait conscience, mais aussi parfois une cessation de l'état de douleur et de l'état de souffrance. Moi, j'avoue que je penche plutôt vers cette définition que la définition de longue durée, mais je crois que vous avez eu raison, effectivement, de nous rappeler ça. Je me souviens toujours que les combattants kurdes dans le nord de la Syrie disaient au moment des plus grands combats, ça m'avait été rapporté par des amis qui les approchait beaucoup, de le Rojava syrien, pas en prison, pas à l'hôpital, pas au cimetière, tout va bien. Donc d'abord, on constate cela, que la souffrance n'est pas là, et à ce moment-là, la discussion peut commencer. Malheureusement, on dit ça au moment où elle signe. En tout cas, merci, monsieur, d'avoir rappelé cette nécessaire mise en contexte du début d'une conversation sur ce thème.
On va peut-être prendre une dernière question, puisque leur tourne, je sais que pas mal d'entre vous doivent...
Allô ? Oui, c'est bon. Parmi les conditions pour accéder au bonheur, vous avez évoqué, c'est peut-être plutôt Frédéric Lenoir, avec le stoïcisme...
Tenez le micro tout près de votre bouche.
Oui, je recommence. Parmi les facteurs qui peuvent conduire au bonheur, vous avez évoqué plutôt Frédéric Lenoir avec le stoïcisme, l'acceptation des événements que nous sommes. J'ai un petit peu du mal encore avec pour intégrer cette notion-là. Est-ce que ça ne conduit pas, de façon peut-être assez insidieuse, à moins d'action, moins d'engagement, par exemple en tant que citoyen dans la cité, à un certain immobilisme finalement d'accepter?
Alors, c'est une très bonne question. Mais il faut distinguer l'acceptation au sens où les stoïciens l'entendent du fatalisme, qui a conduit à une résignation. Alors que là, ce n'est pas ça dont nous parlent les stoïciens. Je rappelle la distinction fondamentale que fait Épictète entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, il faut tout faire pour le changer. Si ça dépend de moi, je suis face à un monde injuste, je vais me battre pour que ce monde soit plus juste. Si je suis face à la catastrophe écologique, je vais m'engager ou faire ce que je peux pour réduire cette catastrophe. Si je suis face à quelqu'un qui souffre, je vais agir pour essayer d'apaiser sa souffrance. Mais ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire lorsqu'on est face à quelque chose, une situation, un événement peut-être collectif sur lequel je n'ai aucun impact, là, il vaut mieux accepter ce qu'on ne peut pas changer. Parce que sinon, on va souffrir deux fois, et là je reviens à ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est-à-dire on va y avoir la douleur de l'événement et la souffrance de la colère et du ressentiment contre la vie qui a permis cet événement. Et donc c'est ça que nous disent les stoïciens. Ce n'est pas du tout de tout accepter dans une situation religieuse fataliste où tout est bien. Non. Changeons tout ce qu'on peut changer. Lorsqu'on ne peut plus rien changer, mieux vaut dire oui à la vie que d'être en colère contre la vie.
Alors je suis désolé, je vais endosser le rôle du... Déjà, voilà, de celui qui vous annonce que la soirée est terminée. Merci beaucoup vraiment pour votre présence, votre écoute chaleureuse, attentive, pour vos questions. On était ravis. Je ne parle pas en nom de mes amis, mais de passer.